Quelqu'un dans le chat, bonjour à tous, vient d'écrire Burk le café. Mais enfin, c'est un peu tôt pour le sommaire, je vous le mets dans un instant. On est le mardi 21 avril 2026 et il est 9h20. Bienvenue dans la matinée Étienne, j'espère que vous allez bien. On commence littéralement 3 heures plus tard qu'hier. Hier c'était exceptionnel, ne vous habituez pas. On a fait une revue de presse 6h, 9h hier. Voilà, parce que j'avais un petit rendez-vous en début de journée que je ne pouvais pas bouger. Et donc je ne savais pas ce qu'il allait entraîner dans la suite de ma journée. La revue de presse est tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc c'est le matin, et quand c'est pas le matin, eh ben on s'arrange. On l'a fait l'après-midi, on le fait le soir. Mais hier, j'étais pas sûr de pouvoir la faire, et cette revue de presse, l'après-midi ou le soir. Et j'ai bien fait parce que j'aurais pas pu. D'où le 6-9. 6-9 sur énergie. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Dommage, c'était un bon horaire pour moi. Ah oui, bah effectivement, il y en a qui étaient contents hier. Ah, super, enfin je peux regarder en live, d'habitude je peux pas et tout. Ouais. Oui. Sauf que... C'est quoi cette coiffure de Minimoys là sauf que d'abord c'est tôt. Parce que pour lire, pour être à la 6h, bah faut se réveiller à 3h en gros quoi, pour lire les journaux, au minimum. Et puis il y a moins de monde aussi. Hein, et il y a aussi moins de monde, et ça c'est important parce que... Plus on est fou, plus mieux c'est. Voilà. Donc, il y avait du monde à 6 heures. Oui, mais moins. Voilà. La moula. Non. Ça change rien. Pour le coup, ça change. Il y a des gens qui disent la moula. Non, pour le coup, ça change rien. Mais c'est juste que c'est plus sympa quand on est plus nombreux, quoi. Tu es beau gosse sur la fiche. Ah oui. Ah oui, c'est sans IA, ça. Hein. Ça, c'est ma vraie musculature, bien sûr. Tiens, je vais me mettre le doigt dans le nez. Bizarre ce bruit. J'ai remarqué qu'ils ont été sages, aucune modération n'a été faite hier matin. Ouais, ils étaient endormis surtout. Bonjour Samuel, tu n'es pas en vacances? Si, ça fait 30 ans. Et ça continue. Ouais, non, oui, vacances, pas. Bon. Hein, c'est cool de faire un métier que t'aimes, quoi. Heureux ceux qui ont cette chance. Hein, on a un peu l'impression d'être en vacances tout le temps. Voilà. Même quand ça pique un peu. Je vous lis un petit peu, et puis on va démarrer cette belle revue de presse, et un peu d'actu. Bonjour, je pige plus rien. Hier, vous avez pas dit que c'était de 6h à 9h du matin? Oh, waouh, c'est le kirk. Je sais pas par quoi commencer. Comment te dire? Alors, ça fait 5 ans que cette revue de presse existe. Et elle est de 6h à 9h. Elle est... Putain, il m'a fait me tromper. Oh putain, je recommence. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Ça fait 5 ans que cette revue de presse existe. Elle est de 9h à midi, depuis 5 ans. Je regarde ma bête. Oh, j'arrive dans un instant, je vais remercier un raid de fou. Ami de Naotech, ne bougez pas, j'ai un truc à vous dire. Donc ça fait 5 ans que cette revue de presse est de 9h à midi. Quand je ne peux pas la faire le matin, c'est mon engagement. Je la fais à un autre moment de la journée, parce que la revue de presse est sacrée. Donc quand je ne peux pas la faire le matin, je la fais l'après-midi ou je la fais le soir. Voilà. Sauf que hier, il y avait un monde où je ne pouvais pas la faire. L'après-midi et le soir. Donc je l'ai fait très tôt. Mais le 6-9, il est exceptionnel. Je crois qu'on n'en a jamais fait à cette heure-là. Quoi. Voilà. Donc c'est pas l'horaire normal. Maintenant, on va remercier les amis de Naotech qui nous ont raid à l'instant, que je vois souvent en matinale. Vous êtes des leftos par contre. Hein. Je vais vous montrer la chaîne qui vient de nous raid. Parce que c'est une chaîne historique de YouTube. Hein. Elle existe depuis très longtemps, cette chaîne. C'est l'actu de la tech. Pourquoi tu fais pas de prog pour la semaine? Bah parce que c'est tous les matins, 9h midi. Point retour chariot. Pourquoi tu fais pas de prog pour dire que la revue de presse c'est lundi de 9h à midi, le mardi de 9h à midi, le mercredi de 9h à midi, le jeudi de 9h à midi et le vendredi de 9h à midi? Parce que c'est 9h à midi. Et donc je vais pas me casser le cul à faire une prog. Parce que ça fait 5 ans que c'est comme ça. Et puis sinon, quand il y a un truc qui bouge, eh ben je mets un message épinglé dans le chat et suite de venir sur la chaîne. Donc si tu viens sur la chaîne pour voir le prog, tu risqueras de voir ce message épinglé. Qui te dira, bah exceptionnellement, aujourd'hui, c'est à telle heure, par exemple. Ouais. Sauf quand il y a MVP, effectivement, MVP, deux fois par mois, mercredi. Et là, on commence un tout petit peu plus tôt, parce que la revue de presse, elle est plus courte. Oh, merde, putain, j'en ai un ce matin. Attendez, d'abord, j'en ai un, parce que demain, il y a MVP, il faut que je vous montre le visuel. Alors, attendez, là, je vous montre la chaîne qui vient de nous raid. Voilà. Classique, chaîne historique de YouTube, hein, Actu de la Tech, et sur Twitch aussi. Voilà. Eh putain, vous pourriez me faire montrer ce... Monter son nombre de followers, hein, c'est une chaîne qui mérite. Et franchement, avec le taf que vous faites, Est-ce que vous ne méritez pas 10 fois plus de followers? Tiens, je vous épingle la chaîne de Naotech et faites-moi plaisir. Allez suivre cette chaîne. Vous avez une matinale tous les matins avec l'équipe de Naotech qui est aussi sur YouTube sur l'actu de la tech. C'était Marion. Mais oui, je vois là. Il y a MMG qui préchote et qui me dit c'était Marion ce matin. Hein, ça peut être Jérôme, ça peut être Marion notamment. Ça parlait du changement de DG chez Apple annoncé hier soir. On a du follower organique. On a du follower organique et de qualité, me dit Naotech Team. Mardi, jeudi, vendredi la matinale. C'est pas tous les matins, c'est une bêtise. Mardi, jeudi, vendredi. Mm. Alors vous, hein, vous me la follow? Vous me faites des petits follow? Ok, super. À propos de...
Quoi?
Waouh. Wow, y a quelqu'un qui fait la promotion de la chicha dans le chat, c'est très bizarre. Waouh, je vous lis le message parce que j'aime bien les messages un peu surréalistes. Oh, monsieur, bonjour. Il faut que vous arrêtiez tout de suite ce que vous faites. La chicha, elle est à 1,89€. Hein, tu nous fais une petite pub là, non? C'est un établissement qui s'appelle comme ça. Donc arrêtez le travail, ça sert à rien. Venez fumer votre chicha tranquillement après une journée de fatigue. Alors, je vous garde vraiment s'il y a goût pomme. Alors, ma journée n'a pas commencé, donc je ne vais pas aller me faire une petite chicha. Merci, Coben, pour le 30e mois d'abonnement. Merci pour le sub. Prends ton produit contre la toux. Alors, c'est pas un produit contre la toux, c'est un anti-histaminique ou un corticoïde local, parce que mes poumons sont un peu irrités par la pollution parisienne. Un jour, je ne serai plus là. Donc, merci la pollution. Puis après, tu as des gens qui disent « Ah oui, mais non, alors les ZFE, puis alors, non, mais laissez les gens circuler. » Ah oh non, mais vraiment, les écolos, là, avec votre truc sur la pollution de l'air, bon, je sais plus là. Ah bah oui, il avait raison, en fait. Donc, oui, j'ai pris ce matin, mais ça tout saute un peu. Ouais. Non, mais vraiment, les écolos, vous abusez, hein. Et ouais. Tu n'es pas en vacances à l'étranger. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Oh putain, il fait chaud ici. Il fait chaud, non? Allez, je me déshabille. Allez. La courbe des followers va monter très fort car dans un instant je vais enlever ce sweat. Voilà. Alors je l'enlève hors cadre caméra parce qu'après quand j'enlève mon sweat on voit mon torse, on voit le six pack, on voit les tatouages de dragon et voilà, et ça produit ce genre de commentaires dans le chat, j'ai la demi-molle, voilà. Et après les gens ne sont plus sur l'actu, tu comprends? Et après les gens ne sont plus sur l'actu, les gens ne sont plus sur l'information, ils ont le cerveau un peu, vous voyez, un peu pollué quoi. Pour ça je sors du cadre. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ouh. Excusez-moi, je suis sur un petit historique. Vous savez, quand je fais des petites pauses comme ça, c'est parce que je fais un petit historique de bon matin. Waouh. Ça insulte les modérateurs. Mais t'es modérateur aux 15 ans ou quoi? Waouh, l'historique est fou, qui est pas fou en vrai. Hein. Mon Dieu, que les gens sont bêtes! Oh là là. Va chier toi-même! Ok, mais une bonne claque, ça défoule! Oh, dis donc, l'historique est pas très ancien, mais il est pas fou. Hein? Hein? Va falloir faire un effort. Hein? Si on sursis, hein? Ah, il va falloir élever le niveau du débat. T'imagines si on avait des milliers de personnes tous les matins qui étaient sur ce registre-là? L'enfer! Alors, on était où? Merci Scorbutman pour l'abonnement faire à la commu. Le fou du PMU. Hop, stop, on arrête tout. PMU, esprit d'escalier, association d'idées, PMU, euro million. J'ai vu hier, au hasard de mon surf sur Internet, sur le World Wide Web, sur les Internets, qu'il y avait 145 millions d'euros, je crois, à gagner à l'Euromillion ce soir. Je ne fais pas la promotion de la Française des Jeux. Ce stream n'est pas sponsorisé. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas sponsoriser les jeux d'argent. À tous les coups, on perd. Mais quand même, nom de Dieu, 145 millions d'euros. Hein, j'avais presque, hier, dans mes idées débiles de la journée, je me suis dit, je vais faire un stream là-dessus. Je vais faire un stream sur qu'est-ce qu'on ferait de 145 millions d'euros, tu vois. Alors, je me suis dit, ça serait drôle, on ferait un stream et on discute, par exemple, ce soir, de façon chill, et on lance ce débat, tu vois. Et on refait le monde, tu vois. Mais après, je me suis dit, ouais, il y a un petit côté un peu promotion de la Française des Jeux. Moi, je suis pas pour la promotion des jeux d'argent, je refuse toute collaboration commerciale. Tout OP avec une société qui met en avant les jeux de hasard. C'est la base, quand même. Donc, ouais, je me suis dit, ah, c'est pas la meilleure idée, quoi. Donc, mais ça pourrait être drôle. 145 millions d'euros, ce serait pas mal pour la fin de mes études. Pas besoin de bosser à côté, incroyable. Petit chose, mais attends, c'est des études de combien de siècles? T'as besoin de 145 millions d'euros pour finir tes études? Mais c'est pas des études de médecine, c'est des études de quoi? C'est des études très très poussées, quoi. Force pour le travail, moi. Force pour le travail, par contre, force pour le travail. J'achèterai des maisons à mes proches, me dit Yuko. Je financerai le service public audiovisuel, me dit Charles Alloncle. Marine Swim, pardon, je me suis trompé de pseudo. Moi, je garderai. C'est beau, ça. Hein, Axlon. Je garderai 2 millions, le reste, je le donnerai. C'est beau, ça.
Ça, c'est beau, ça.
Hein?
Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
Je vous lis, hein. Est-ce que. Attendez. Moi, c'est toujours. Tu vois, moi, je cache pas que je suis pas pour la promotion des jeux d'argent, je suis même contre, mais j'avoue que je fais une petite grille de temps en temps. Hein. Justement, quand il y a des cagnottes comme ça, et pendant 2 jours, enfin 24 heures, parce que j'ai joué hier soir, tu te dis, mais qu'est-ce que je ferais de cet argent? Voilà. Et à chaque fois, je me dis, oh putain, je sais pas. 145 millions d'euros. Charlie me dit, je viens de quitter un live, on a parlé de toi. J'espère bien. Donc, alors Mathieu dit ce serait marrant comme live en vrai. Ouais, alors Mathieu qui gère la chaîne YouTube, qui connaît bien mon écosystème, avec Mathieu en ce moment on se fait plaisir. Mathieu, on a une chaîne YouTube qui est en train de, ouais, le geste super bizarre. Ok, de décoller, quoi. Hein. Le streamer est en train de devenir YouTuber. Ça croît très fort, ouais. Ça croive. ça croive très fort. Oui, le geste chef, oui, je sais, Jouboul, ouais, je sais, le geste est bizarre. On a passé les 200 000 abonnés, comme on dit, parce que sur YouTube, ils disent pas followers, je crois. 200 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Mais mon Dieu, je suis en train de devenir YouTuber. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que Mathieu, il gère la chaîne YouTube, voilà, avec talent. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi je dis ça? Oui, Mathieu, il me dit que ça pourrait être un bon stream ce soir, ça. Voilà. Donc... Oh, c'est trop beau. J'achète des forêts, des espaces naturels pour les préserver. Je crée des sanctuaires animaliers. Je vis juste ma life en essayant d'apporter ma contribution à la société que je veux voir advenir, me dit Zirta et Bonamac avec les 145 millions d'euros. C'est un joli projet en vrai. Donc, la question que je vous pose là maintenant tout de suite, c'est est-ce que, comme le dit Mathieu, ce serait marrant de faire un stream ce soir? Qu'est-ce que je ferais avec 145 millions d'euros qui sont mis en jeu là aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un petit côté promotion des jeux de hasard, qui est un peu gênant, voilà. Moi, ce serait full fun, et puis ça permettrait de refaire le monde aussi, tu vois. 145 millions, je prendrais le pass Navigo à vie. À vie. Ah, promotion, ouais. En insistant bien sur le côté addictif et sensibilisé, ça fait un peu incitation. Ouais, mais à l'oncle, il va encore faire chier, mais il va faire rien chier du tout. Le gars a existé pendant 6 mois, il a disparu. On n'entendra plus parler... à moins que le RN arrive au pouvoir. Puisque l'objectif, c'est de devenir ministre de la Culture, nous a dit le président de la commission. Ah, à la limite, une autre somme que 145 millions pour sortir du côté promotion. Ouais, mais du coup, on sort du côté actu. Et moi, je suis un peu accro à l'actu. En fait, le débat est intéressant parce qu'il y a une actu là-dessus. Enfin, ça, c'est le problème, la déformation. Les gains de la FDJ, c'est reversé à des assos? Ah. Ah non. Non, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Et à mon avis, tu dis aux actionnaires de la FDJ Bon les gars, on vous a pas dit les bénéfs là. C'est pour les assos. Non non, c'est une assos, c'est une entreprise avec, avec des actionnaires. Ce serait beau hein. Ce serait beau. Ah, il y a l'auto du patrimoine, ça c'est autre chose. Alors, au tout début, la Française des Jeux, quand elle ne s'appelait pas la Française des Jeux, quand la Loterie Nationale, je crois, ça a peut-être été son nom, au tout début, c'était pour les gueules cassées. C'était pour les mutilés de guerre, je crois, de la Première Guerre mondiale. C'était une loterie dont les bénéfices allaient justement aux soldats de la Grande Guerre cabossés, quoi. Enfin, plus que cabossés, quoi. Mais ça, c'était il y a longtemps. À moins que certains ici aient vécu la Première Guerre mondiale. Et là, chapeau les gars. Parce que si vous arrivez à m'entendre, à avoir l'ouïe suffisante, et voire même la qualité de vision suffisante pour voir le chat à votre âge avancé, je dis chapeau les gars. Oh, est-ce que tu as vu le reportage avec des guillemets, merci, Michael en una fiesta? Qui est sorti il y a quelques jours sur Charles Allon, fait par CNews. Il est complet sur Dailymotion. C'est hilarant et à pleurer aussi. Deux infos ici. Dailymotion existe toujours. La première. La deuxième, c'est que CNews a fait un reportage sur Charles Allon. Alors, un reportage de CNews sur Charles Allon. Alors, j'aime rire. On aime le fun ici. On est fou, on est fun et on est jeune. Mais non. J'ai des actus plus sérieuses, quoi. J'aime rire, j'aime l'humour. React ce soir? Non, non, non. Oh non, non, ça va, ça va. On lui a accordé suffisamment d'attention. Maintenant, il faut laisser faire les professionnels. Hein? Waouh! Ça, c'est un joli mot. Ce n'est pas un reportage, c'est un panégyrique, nous dit Mathématiques Souterraines. Ça, c'est un joli mot, ça. Incroyable. Ah, vous êtes en forme, hein, c'est impressionnant, hein? C'est fou, ça. Tais-toi, Mimiche. Chut, chut, c'est une surprise. Chut, 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 chut. Oh, le jeu. L'arme de Tigre qui lâche un bonjour, les férus de l'actu. Ça pourrait être mon cri de guerre, ça. Quand je lance la matinale. Bonjour les férus de l'actu! Il est 9h38. Waouh, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pris trop de café. Le sommaire est tombé ou pas encore? Je vais vous le montrer. Bon, là, je me lâche avec vous, je me fais plaisir et on rigole parce que l'actu est assez sévère, voire grave parfois. Donc, je fais. Quand vous me voyez faire le foufou comme ça avant, c'est que ça annonce des sujets compliqués, quoi, un peu lourds. Tu vois? Donc méfiez-vous de la bonne humeur pré-revue de presse, ça cache des titres un peu dark. Est-ce que tu as arrêté ton émission Ça me plaît, j'ai dû louper l'info. J'ai pas de sponsor depuis un petit moment sur Ça me plaît. Donc j'ai fait quelques numéros sans, mais là c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je continue à chercher. Voilà. Bon, après, comme je suis très occupé par l'actu et par d'autres projets, ça me libère un petit peu du temps, et notamment le dimanche avec la famille aussi. Voilà. Puis comme la famille s'est un peu agrandie et que j'essaie de ne pas laisser Hélène seule avec les trois enfants, en mode, tu vois, papa et mari indigne, cette libération de temps le dimanche, en fait, elle me va bien. C'est aussi pour ça que je ne cherche pas très très fort. Mais on est plutôt dans une recherche. En ce moment, je suis beaucoup sur la réflexion sur l'après. Il faut toujours avoir des idées de format, de concept. Et donc, je m'interroge beaucoup sur l'année prochaine, sur ce que je pourrais faire évoluer voilà, les nouveaux rendez-vous. Voilà. Donc, quel nouveau rendez-vous on pourrait faire autour du jeu vidéo, par exemple? Ça me plaît, trois saisons, peut-être que tu vas essayer de faire autre chose. J'ai participé au redressement démographique. Ça, ouais, ça réarme ici à mort. Donc, il y a ça. Quel nouveau format autour du jeu vidéo? Est-ce qu'on pourrait imaginer un truc autour de la littérature, de la lecture? Je sais pas encore. Voilà, l'actu, bon, l'actu, tu touches à rien, parce que vu l'année qui arrive de présidentielle, là, notamment, et vu l'état du monde, on va en parler dans un instant, l'actu, n'a jamais été aussi présente sur cette chaîne, et on va pas changer, au contraire, on va plutôt augmenter. Voilà. Donc, j'ai toujours ce projet de relancer l'hebdo Étienne dans une nouvelle formule à laquelle je crois beaucoup, mais là, j'ai besoin de moyens, c'est pareil, si j'ai pas de sponsor, je la fais pas. Voilà. Mais voilà, on est en réflexion. Tout va bien. Avec Astrid de Villene. Ah, je l'aime, Astrid de Villene. Ah, c'est vrai qu'elle aime bien la littérature, Astrid. C'est vrai qu'Astrid de Villene, qui journaliste spécialisée politique, passionnée de littérature et de poésie. Tu vas remettre les pubs? Non, on remet pas les pubs ici. Ah non, 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 non. Non, il y a la seule pub que vous pouvez prendre ici, c'est la pub que vous avez au lancement, là, je sais pas comment elle s'appelle, là, dans le pré-roll. Celle-là, je peux pas l'enlever. Voilà. Sauf en mettant de la pub dans le stream, mais ça, je veux pas. Donc, non, je ne remettrai pas la pub. Ouais, je remettrai pas la pub. Et donc, Astrid de Villene, c'est une journaliste politique passionnée de littérature et de poésie qui, à un moment, avait lancé une chaîne et puis s'est rendu compte que c'était trop. Je pense que par rapport à son emploi du temps, c'était impossible. Avec Joe, on l'avait un tout petit peu accompagné sur le plan technique là-dessus. Mais c'est vrai que Astrid, qui est sincèrement très intéressée, voire passionnée, en amour, je dirais, pour l'outil Twitch, faire un truc sur la littérature avec elle. Ce serait pas mal. Ouais, faut que je trouve la bonne idée. Je rêve d'avoir un influenceur qui fasse un book club, genre d'avoir une commu qui lit un livre pendant un mois et avoir un live d'échange après. Ça, c'est une idée, ça. Attends. Alors, il y a Maxime Biaggi, hein, qui tu parles d'influenceur qui fasse un book club. Maxime, il a fond là-dessus. C'est pas une idée de fou, ça? Maxime, c'est ça qu'il a fait, Maxime, tu me dis? Un club de. Oui, c'est un club de lecture. Il y a Sugar qui me dit, mais t'en as déjà parlé l'autre jour. Mais avec cette idée-là, précisément, non, la dernière fois, on avait validé l'idée de recevoir un influenceur ou une influenceuse qui nous parle de son livre préféré. C'était ça l'idée qu'on avait validée, Sugar. T'inventes. Oh, Sugar, il invente. Non, là, c'est une autre idée. C'est. On se donne un livre, on le lit pendant un mois. Un viewer t'avait proposé de faire un book club. Ah oui, mais alors, comme j'ai aucune idée de ce que c'est un book club, c'est ça un book club? Pourquoi vous dites book club? Pourquoi vous dites pas club de lecture? Parce que ça, j'aurais compris ça. Les Anglish, là. Hein? Americano. Hein? Ça fait John, peut-être. Les Anglois. Les Anglois. Dites donc, hein, on n'a pas brûlé Jeanne d'Arc pour rien. Hein. Oh, le mec, il pète un câble. Hein, la perfide Albion, là. Hein, vos desserts avec de la gelée, là. La sauce menthe dans l'agneau, là. C'est parti, je suis parti, je suis parti. Les villes roast beef. Les bouffeurs de pain de mie, exactement. Hein, avec votre cuisine, là. Les écrevisses. Le porridge dégueulasse. Je lis le chat. Hein. Jeanne, au secours! Et premier degré, j'adore l'Angleterre. C'est un pays qui m'a toujours fasciné. J'adore cette langue que je parle mal. J'adore ce pays. J'adore ce petit pas de côté que les Anglais ont toujours fait par rapport à tout. J'adore la musique de la langue. J'aime même leur cuisine bizarre, je l'aime. J'adore la campagne anglaise. J'adore Londres, qui est une ville des plus cosmopolites au monde et qui est incroyable de culture et de vie, notamment la nuit. Voilà. Donc ça c'est la vérité. Voilà. Et leur humour aussi. Et leur sens de la fête. Oh, papa, le breton que je suis a toujours aimé la façon dont les Anglais font la fête. C'est-à-dire, il y a un moment, tu sais, il y a un moment. Il y a un moment de la soirée, tu te rappelles. Voilà. Et le lendemain, tu vas voir tes potes ou tes collègues au bureau et tu dis, est-ce que vous pouvez me raconter la soirée? Je me rappelle plus, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait des bêtises? Ah ouais. Et puis la pâtisserie britannique, pardon, hein, mais la pâtisserie britannique, hein, hein, les comment les scones, les scones, l'apple pie, hein, les petites doses de cannelle ici ou là. Hein? La pâtisserie britannique, mesdames et messieurs. Ah, les Anglais sont incroyables. Le carrot cake, ouais, un peu sucré. Est-ce que Malo a bien aimé Oui, parce que Malo, mon grand de 9 ans, est parti en voyage scolaire une petite semaine en Angleterre. Il a kiffé, ouais. Il a kiffé. Bon, après, ils étaient entre potes de l'école, hein, tu vois. Je suis pas sûr que les interactions avec les Anglais étaient très, 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 très fortes. Hein, mais il a aimé, ouais. D'ailleurs, la reine Elisabeth II aurait eu 100 ans aujourd'hui, me dit Mimi. Je fais bon anniversaire, Elisabeth II. Qu'est-ce qu'elle devient? 100 ans, la reine Elisabeth II. Mais c'est une longévité incroyable. Bon anniversaire. Happy birthday, Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle devient? On n'entend plus trop parler d'elle. Merci, Carole K888. Merci, Etocello. Merci pour les soutiens. Qu'est-ce qu'elle devient? Comment ça, rip? Elle mange des. Des radis par la racine. Je crois qu'on dit des pissenlits par la. Oh! Oh putain, oui, elle est morte. Oh oui, c'est vrai. Oh. Toujours les meilleurs qui partent en premier. Oh, je m'en rappelle maintenant. Ok. Alright. Quel talent, quel acteur. Bon, putain, je suis en forme. Ah oui, alors je sais pourquoi je suis en forme. J'ai dormi. Je suis allé au lit très très tôt. Les parents sont les parents. En ce moment, je dis beaucoup les parents à la place des enfants. Je sais pas, je suis en train de vieillir. Je pense que doucement, je m'approche de la fin. Profitez, hein, c'est bientôt, bientôt terminé. Les enfants sont en vacances chez leurs grands-parents. Et donc, je suis allé au lit super tôt. Je suis allé au lit à 22h30. Je suis allé au lit à 22h30 hier. J'ai dormi jusqu'à 5h30. J'ai dormi 7h. Ça ne m'est pas arrivé depuis des années. Enfin, depuis longtemps. Ça, je suis en forme là. Ah ouais. Ok, je comprends maintenant. Ceci explique cela. Je suis allé Big Flo et Oli. Oh. Ouais, 7 heures, j'ai pas dormi ça depuis super longtemps. Oli comme à l'EHPAD, exactement. Mais effectivement.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Tout à fait. Et bien justement, l'enchaînement est parfait, puisque je vais vous révéler le sommaire que voici. On va notamment parler du RN aujourd'hui, mais pas seulement, mais on a un gros dossier sur les relations entre les RN et le RN et les grands patrons. Voilà, parce que là, il y a pas mal d'actu et je vous ai mis trois dossiers, trois articles sur le sujet. Ok, 30 minutes d'intro. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est la règle ici. On aime les intros, on aime les. Non, pas les préliminaires, c'est mal. Cette phrase va encore être détournée de son contexte. On aime les introductions. Ici, voilà. Mais ça dure 30 minutes. C'est l'école étoile. Étoile m'a dit, au début, tu as le droit de faire une petite intro. Voilà. C'est sous le plaisir de Twitch. Voilà. Moi, je fais 30 minutes, c'est ma règle. Et après, on attaque. Donc, on attaque. Et donc, je vais dire bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast audio, parce que la revue de presse qui est postée depuis le mois de septembre sur toutes les plateformes de podcast audio. Et ça marche du tonnerre, elle commence là. Là où les bactéries attaquent. Tony Gentil, peu importe. Donc la revue de presse audio, elle commence là. Les gens qui nous écoutent en podcast audio, ils n'ont pas l'intro. Ils n'ont pas l'intro. Ça démarre, tac, tac, comme ça. Direct. On y va? C'est son... ah, c'est marrant parce que en fait, je suis très en forme quand j'ai pas dormi ou quand j'ai trop dormi. Salut Davidou. Merci Zacolon. Zacolon, avec un K, hein, pas avec un C. Sinon, ça ferait un espèce de mariage bizarre entre Colon et Zac, comme Zac Nani par exemple. Et ça n'est pas ça. C'est Zacolon, avec un K. Merci pour le soutien en tout cas. Merci Carole K pour le deuxième mois d'abonnement également. Ok. On y va. C'est parti pour le sommaire. Et hop. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. C'est la grande revue de presse, enfin grande, parce qu'elle dure longtemps, que je présente sur Twitch et j'en suis très heureux. Depuis 5 ans maintenant, c'est tous les matins. L'horaire normal, c'est 9h midi. sur Twitch. Merci à ceux qui sont live sur Twitch en ce moment, en ce mardi 21 avril 2026. À l'heure où on parle, il est précisément 9h50 du matin. Merci à ceux qui vont nous écouter tout à l'heure en replay sur YouTube. Voilà, on fera d'ailleurs un coup de projecteur sur un sujet en particulier. Vous allez le voir sur RN et grand patron l'opération séduction qu'on mettra sur YouTube. Et puis, et là, un bonjour tout spécifique à ceux qui nous écoutent en podcast audio, parce que vous n'êtes pas des milliers. Pardon, vous n'êtes pas des centaines, vous n'êtes pas des milliers, vous n'êtes pas des centaines de milliers. Vous n'êtes même pas des millions, vous êtes des milliards. J'ai fait un stage avec un rapporteur de l'Assemblée nationale sur les chiffres, donc du coup il m'a toujours dit « mais un peu plus, mais un peu plus ». Vous êtes des milliards à nous écouter en podcast audio tous les jours sur toutes les plateformes, les Apple Podcasts, les Spotify, les Deezer. Vous êtes des milliards. C'est un copain qui bosse à l'Assemblée qui m'a dit ça. Voilà, et on commence toujours par le sommaire. Par le sommaire, et où je vous dis à peu près ce qu'il y a dans l'actu. Ouais, vous allez voir, et ça rigole pas ce matin, il y a des choses assez lourdes. Let's go. Le sommaire, ça donne ça. On va d'abord évidemment faire le point sur le conflit Iran-USA. Je sais que, comme vous êtes un public informé, éclairé, vous savez que on est sur la fin du cessez-le-feu, voilà. Négociation de paix avant le second round, iranien et américain font monter les enchères, l'actuel est là, alors que cessez-le-feu signé entre les États-Unis et l'Iran doit expirer dans la nuit de mardi à mercredi, la nuit prochaine. La tenue de pourparlers au Pakistan reste incertaine. En attendant, les deux parties multiplient les menaces. Voilà. Donc on fera le point sur la fin du cessez-le-feu. Voilà, la question c'est est-ce que le conflit va reprendre, hein, les tirs de missiles, de bombes, etc. Où en est-on de ces négociations? On fera le point avec Libération. Et puis, je lisais Le Monde aussi, et là je vois un papier sur la bande de Gaza, et je me dis, ça c'est bien, parce que ici, un conflit ne chasse pas l'autre, une information ne chasse pas l'autre. On a beaucoup parlé du Groenland ces derniers temps, du Venezuela, et puis évidemment de la guerre au Moyen-Orient. Et tout ça ne doit pas nous faire oublier, par exemple, la guerre en Ukraine, et pas nous faire oublier ce qui se passe à Gaza. Et là, il y a un papier dans Le Monde, justement, alors, dont le titre apparaît un peu banal comme ça, dans la bande de Gaza, le plan de paix de Trump dans les limbes. Bon, un plan de paix de Trump qui ne marche pas, en soi, ce n'est pas une info, ce n'est pas une énorme surprise, mais c'est l'occasion pour Le Monde de faire un point sur les violences qui se poursuivent à Gaza. Alors qu'officiellement, il y a une trêve, pourtant, depuis octobre. Voilà. Et il y a eu 750 Palestiniens tués depuis cette soi-disant trêve. Voilà. Je voulais mettre des guillemets d'ailleurs dans ce titre. Plus de 750 Palestiniens tués depuis la trêve, je voulais mettre des guillemets, mais mon petit logiciel ne me permet pas de mettre des guillemets. Mais pourtant, il faut mettre des guillemets là. Parce qu'il y a une trêve avec 750 morts côté palestinien, voilà, il y a un problème. Donc on en parlera tout à l'heure. Alors, un des gros dossiers d'actualité en France, c'est ce qui se passe en ce moment entre le RN et les grands patrons. Ouais, représenté par le MEDEF, le syndicat patronal. Il y a beaucoup d'articles, des analyses intéressantes. Donc il y a un papier dans Les Échos qui nous parlera de cette opération séduction de Bardella, mais du RN d'une façon générale, parce que Marine Le Pen a été reçue aussi par plusieurs grands patrons récemment, on en a parlé, en direction du MEDEF, voilà, donc les actus. On a un éclairage du Monde qui essaye de comprendre, d'illustrer ce pas de deux, hein, moi j'aurais envie de dire cette valse presque, du RN et des grands patrons. Pourquoi ce RN que le patronat, le MEDEF, les grands patrons refusaient de recevoir avant, il n'y a pas si longtemps, pourquoi désormais c'est OK, c'est possible, voilà. Et il y a un gros dossier dans Mediapart qui justement essaie de donner du sens à ça. Tiens, pourquoi j'ai perdu, ah voilà, qui est ici. Pourquoi les milieux d'affaires préparent leur ralliement à l'extrême droite? Là, je vous en ai mis qu'une petite partie, on se penchera sur ce dossier dans Mediapart, qu'un papier assez engagé. Hein, Mediapart n'a pas beaucoup de sympathie pour le RN, donc je vous préviens parce qu'il y a clairement quelque chose d'assez éditorialisé, mais que dont les aspects sont assez pertinents aussi. Voilà, donc on lira, c'est un des gros dossiers, on mettra ça sur YouTube aussi. La démographie, bon, c'est une de mes marottes, hein, vous savez, ici ça réarme très fort, hein, mais on tient aussi ce discours, les enfants, c'est si on veut. Hein. Il y a des guillemets, quelqu'un a réussi à mettre des guillemets? Comment t'as réussi à mettre des guillemets, Sugar? Incroyable. Et voilà, et on peut faire des enfants, on peut ne pas faire d'enfants, on peut avoir zéro enfant, un enfant, 12 enfants, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc personne ne juge personne. Mais Et ça a une dimension sociétale dans le sens où la chute de la démographie dans plein de pays, notamment la France, ça a des conséquences et ça provoque des interrogations sur notre économie et notre modèle social. C'est là où ça devient quelque chose auquel on doit s'intéresser. La chute de la démographie est telle que dans certains pays, les nounous se mettent à garder les animaux. Le titre n'a aucun intérêt. C'est un tout petit extrait de l'interview de ce monsieur qui s'appelle Thibaut Prébet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Démographie, la bombe tranquille ». Bon, parfois on fait un titre un peu putaclic pour attirer le regard. Bon, alors ben, le titre n'a aucun lien avec le propos en fait de l'auteur. Voilà, ça arrive. Le titre il est pourri. L'article est intéressant, par contre. Et est-ce qu'il dit « Je reste perplexe sur le titre ». T'as raison, il pourrit le titre. Alors attention, mesdames et messieurs. Il y a un truc qui s'appelle l'ANTS, l'Agence Nationale, précisément, des titres sécurisés, qui vient de se faire pirater. Par des hackers, par des pirates. Et là, vous dites « Oh, pff, les titres sécurisés ». Bon, on s'en fout. Alors le problème, c'est que l'ANTS, les titres sécurisés, c'est les passeports, c'est les cartes d'identité. What ? Ouais. Les gars ont été piratés. Le truc qui fait les cartes d'identité, les passeports en France, a été piraté. Boum ! Voilà. Pile quand je fais mes demandes. Ok, Twix, c'est peut-être toi qui es derrière ce hacking. Voilà. Aucun système informatique n'est inviolable. Vous imaginez bien que s'ils ont réussi à pirater ça. L'agence nationale qui gère les demandes de pièces d'identité a été victime d'une fuite de données. Nom, prénom, adresse électronique, date de naissance sont concernés. On se penchera là-dessus. Et puis du coup, j'ai trouvé un article dans Les Échos que je trouve passionnant aussi sur les nouvelles méthodes des hackers pour pirater votre compte en banque. On reste sur le hacking. Là, il y a un peu de pédagogie à faire. Ils sont de plus en plus forts pour vous faire croire avec le SMS, le mail, l'appel téléphonique même. Parfois même des trucs d'appli qui ressemblent à l'appli de ta banque que c'est bien ton conseiller bancaire en face. C'est bien lui qui te demande de faire ça, ça, ça et ça. Les mecs sont devenus giga forts. Hein. Ça ne vise pas plus seulement les gens inattentifs ou les personnes âgées un peu dépassées par le numérique. Tout le monde peut se faire avoir aujourd'hui. Tout le monde peut se faire avoir aujourd'hui. Voilà. C'est un peu le message que je me permettrais de vous faire passer. Donc soyez super prudents dans vos échanges sur Internet autour de la thunasse, parce qu'on peut tous se faire arnaquer. Si ça se trouve, ce stream, c'est pas le stream de Samuel Etienne. Peut-être que cette chaîne Twitch s'est fait pirater et depuis 41 minutes, il y a un faux moi hein, qui est en train de nous faire une revue de presse. Et qui va vous demander dans un instant votre IBAN, hein, vos codes de carte bleue, voilà. Et vous êtes là, vous êtes 3146, et dans quelques minutes, peut-être que... oui, c'est peut-être du deepfake, voilà. Et peut-être que votre compte en banque va se faire siphonner, mesdames et messieurs. Voilà. Ah, non, c'est impossible, vu le nombre de conneries que je dis depuis 41 minutes. Aucune IA ne peut faire ça. Voilà. Aucune IA. Donc non, c'est, pas de souci. Mais méfiez-vous. OK ? Voilà pour le sommaire, il est pas mal. Hein. Il y a pas mal de choses. Alors, il y a autre chose dont je dois vous parler avant de commencer cette revue de presse, c'est ben demain, il y a un MVP. Il y a un MVP, je vais vous montrer le visuel, j'ai oublié de vous le montrer. Montre-nous quand même si tu as 6 doigts. Ben, j'ai 5 doigts, bien sûr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 5, c'est bon. Donc, alors, faut que je vous mette. Putain, je suis déchaîné, putain, ça va pas du tout. Ivre de café, il lance un stream. Ok, j'ai le MVP de demain. MVP, parcourir. Il est là. MVP de demain. Où est-ce qu'il y a le MVP de demain ? Il est là. Ouah ! Oh, l'informatique. Vous avez vu ? En 2 secondes, je suis allé chercher j'ai récupéré le visuel qui était quelque part caché dans un film de discussion et je vous l'ai mis. Tac ! Est-ce qu'il est babou ce MVP demain ? Voilà. Voilà. Demain, MVP. Donc MVP, c'est mon émission 2 fois par mois, le mercredi, entre 10h et 13h, qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On en a fait un festival, hein, il n'y a pas longtemps. Un énorme salon avec... Les chiffres officiels parlent de 10 000 visiteurs, mais à la louche, des millions. Hein. Voilà. Et demain, on a un nouveau numéro de MVP avec Jean Massier, mesdames et messieurs. Le Jean, il est là, voilà, avec Ludovic B, le pilier, qui est là à chaque émission. Un spécialiste des métiers, qui a une chaîne YouTube où il explore justement les métiers. Voilà. Et Charlotte Vautier, que j'aime beaucoup, qui est aussi une habituée de l'émission. C'est quoi ce pull qu'ils m'ont mis? Je ris parce que. Je ris parce qu'en fait, à la DA de l'émission, ils prennent des photos de moi et ils mettent d'autres vêtements. Ça, c'est les pulls que je portais quand j'étais jeune. J'adorais les pulls un peu ras du cou, un peu comme ça, là. Marrant, ça. C'est drôle, ils sont très forts. C'est moi, là, au milieu, là. Le mec qui fait la tortue, là, avec sa petite tête de tortue, là. Voilà. Donc, Charlotte Vautier, Jean Massier et Ludovic B, c'est demain. Voilà. Ça va être sympa, ça. Ils t'ont mis du gloss aussi? Ouais, je brillote un peu, ouais. On dirait une tortue, mais une tortue qui s'est fait belle pour le un peu pour le carnaval de Rio, un petit peu. Hein, je sais pas, ouais. Tu sais, la tortue, quand elle allonge son cou un peu de la carapace pour manger de la salade, là. Vous voyez, un peu ou pas? Comme ça, quand elle fait comme ça. Tu sais, puis elle mange tout doucement, comme ça. Regardez, je suis un peu dans cette vibe-là. Ah, on est d'accord. Mec de mon gloss. Bon, j'enchaîne parce que les gens en podcast audio, ils n'ont pas l'image. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il est. C'est vraiment le fou du bus, lui. Voilà. Sans l'image, c'est pas drôle. Donc, amis qui nous écoutent en podcast, d'abord, je vous fais des bisous. Ah, c'est bon. Oh, mon épouse qui m'envoie une photo des deux petits en vacances. Oh, le petit déj, le matin. Oh là là là. Allez, sur un petit plateau. Allez. Ok, les grands-parents qui font péter le petit plateau de petit-déj, mais ils ont quoi là? Ils ont du poulet le matin, petit-déj? C'est pas possible. Hein. Un poulet chacun, mais c'est pas possible. Non, c'est pas, c'est des céréales. Ils sont heureux. J'espère qu'ils sont pas devant la télé, hein. Ça s'envoie un bucket à 9h. Si, il y a un invité MVP, mais on vient de le caler. On a un invité MVP, c'est l'invité avec lequel on revient sur son parcours, et c'est un humoriste, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est Léopold Le Marchand, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Léopold Le Marchand, pas le nageur, hein. Pas le gars qui a les épaules comme as, là. Tu pourras parler de notre prodige français en basketball, Victor Wembanyama, qui est meilleur défenseur de la Ligue. Ouais, j'en ai déjà parlé hier. Alors, pas meilleur défenseur de la Ligue parce que c'est tombé entre-temps. Mais de son arrivée dans les playoffs et du carton qu'il a fait pour le premier match, parce qu'on a la pointe de l'actu. Voilà, donc effectivement, il vient d'être élu meilleur défenseur de la ligue, même si on espère bien plus pour lui, à savoir le titre de MVP, hein, tout poste confondu. Donc ça, on suit ça avec attention. Donc je ne vais pas y revenir parce qu'on a déjà fait une page sur Wemby hier. Ça veut dire que tu n'étais pas là hier. Ça veut dire que tu n'étais pas là hier, ça. Faute! Voilà, on en a parlé hier. Bon, on va démarrer parce que je pense que les gens qui sont en podcast, ils nous disent, mais j'en peux plus de l'autre. On y va? Vous êtes prêts? Il n'y a pas de thème demain. Bon, Alexandra, tu sais, il n'y a plus de thème dans. Alexandra, c'est quoi le thème de l'émission de demain? Il n'y a plus de thème dans MVP. C'est toute l'actualité du monde du travail. Bon, alors, parfois, il y a un gros dossier, mais il n'y a pas un thème. Il n'y a plus de thème depuis septembre, en fait. Il y a juste un gros dossier. Le gros dossier de cette fois, je vais te dire, je suis en train de regarder. Parce qu'on échange beaucoup avec Paul, le rédacteur en chef. Je vais te dire. Ah oui, sur le fait que les Français sont de moins en moins enthousiastes au travail. Ils sont à l'avant-dernière place en Europe. On parlera du burn-out aussi, la perte de motivation. Voilà. Et puis moi, j'ai proposé qu'on parle aussi des arrêts maladie en nette hausse en France. L'un étant sûrement lié à l'autre. Ok? Ça, c'est demain. Donc, c'est pas le thème de l'émission, c'est le gros dossier à un moment. Le brown out. Ouais, c'est pas le born out. Non, d'ailleurs, c'est le bore out. Il s'est trompé, Paul. C'est le bore out, t'as raison. Pourquoi il dit brown out? C'est le bore out. Je pense qu'il a fourché au niveau des mots. C'est le bore out. Non, c'est le. Ah, on dit les deux? Ah, on dit brown out? Ah, d'ailleurs, le brown out, c'est autre chose. Le bore out, c'est. Je sais quand c'est quand on s'emmerde. Et le brown out, ah, ça existe aussi? Manque d'énergie. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, il s'est pas trompé, c'est pas la même chose. Attends, est-ce que c'est la même chose? Bore out. C'est pas le burn out, ça n'a rien à voir avec votre slip. Bore, c'est ennui, et brown, c'est manque de sens. Ah, c'est un peu lié quand même, hein. Oh, il y a même un site, Droit Travail France, qui nous dit burn out, bore out, and brown out. Savez-vous les différencier? Waouh, bah tiens, tu vois, je suis en train de préparer mon émission de demain là. Hein, c'est trois choses différentes, me dit ce site. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. C'est quand tu taffes trop. Ok. Ok. Le bore-out, c'est l'inverse. C'est une sous-charge de travail, c'est un manque de travail et l'ennui qui l'accompagne. Et le brown-out, c'est un salarié qui n'en peut plus des tâches absurdes à accomplir. Voilà, c'est le manque de sens. Ah ouais, ok. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, c'est super intéressant. J'espère que vous ne faites pas un bore out devant ce stream. Sujet important, on en parle demain. Est-ce que vous êtes prêt pour la revue de presse maintenant qu'on a fait le sommaire? Bande de beaux gosses. Est-ce que j'ai un go? Est-ce que j'ai un feu vert? Est-ce que j'ai un... Ouais, vas-y Samuel, fais la revue de presse, c'est parti. Est-ce que j'ai ça? Ou pas? J'ai un go? Ok, super, on y va. Attends, je vais chercher mon café. Bien sûr, Waxel, que je vais t'attendre. Dépêche-toi. Je t'attendrai pas. Dit le mec qui a commencé sa revue de presse il y a 50 minutes. Et qui dit, ouais, maintenant on est à la bourre. Hein. Let's go. On va commencer par ce sujet. Iran, USA, le cessez-le-feu va expirer. Il va expirer la nuit prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi. Boubou me demande dans le chat s'il y aura une rediff de l'émission. Il y a toujours une rediff de l'émission. Sur Twitch, si tu es abonné. Sur YouTube, si tu ne l'es pas. J plus 1. Et en podcast audio, tous les jours à partir de 15-16 h. Négociation de paix, article dans Libé. Avant le second round, Iraniens et Américains font monter les enchères. Alors que le cessez-le-feu signé entre les États-Unis et l'Iran doit expirer la nuit prochaine, la tenue des pourparlers au Pakistan, hein, qui, le Pakistan Islamabad qui se place en position un petit peu de facilitateur pour essayer de trouver une issue au conflit. La tenue des pourparlers reste incertaine. En attendant, les deux parties multiplient les menaces. Les États-Unis et l'Iran ont un point commun, ce sont des pays de cinéma, écrit Célian Massier dans Libé. Leurs dirigeants sont chacun à leur manière les dramaturges de ce conflit qui s'est ouvert le 28 février. La fin de cette guerre, hélas bien réelle, elle, est entrée dans une phase de suspense. Est-ce que la trêve va tenir? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que le compte à rebours du cessez-le-feu signé le 8 avril, c'était pour 2 semaines, donc ça coïncide, oui, a commencé à clignoter? Il est censé expirer dans la nuit de mardi à mercredi, à 2 h du matin précisément. Voilà. À moins qu'un nouveau cycle de négociation ne vienne repousser l'échéance in extremis. Avec Trump, on est habitué, hein. Ça met des, comment on appelle ça? Le terme. Ça met des ultimatums, et puis ça les repousse. En matière commerciale, en matière guerrière, régulièrement. Bon, c'est peut-être ce qu'on va apprendre la nuit prochaine. Donald Trump, seul véritable décideur côté américain. Ah bon, il n'y a pas de contre-pouvoir aux États-Unis? Waouh! Est pressé de voir le mot fin s'afficher au générique. Il a annoncé que son vice-président J.D. Vance, qui est a priori pas justement très partisan de ce conflit, flanqué de son envoyé spécial Steve Witkoff et de son gendre Jared Kushner, retournerait à Islamabad lundi dans la journée, c'était hier. Le 11 avril, le trio américain avait passé 21 heures dans la salle pakistanaise des pourparlers avant d'acter l'échec de ce premier round. Ça, c'était le 11 avril, c'était il y a 10 jours. Voilà, il y avait eu 21 heures d'échange et rien n'en était sorti. En face, les Iraniens prennent en apparence tout leur temps. C'est très compliqué d'essayer de comprendre et de lire la stratégie des dirigeants iraniens. Téhéran n'a pas à ce stade de projet pour le prochain cycle de négociations. Aucune décision n'a été arrêtée à ce sujet, a prétendu lundi le chef de la diplomatie iranienne. À un moment, on s'est demandé si les Iraniens allaient venir à ces négociations. Pourtant, difficile d'imaginer une chaise vide à Islamabad en face du vice-président américain. J.D. Vance préférait certainement renoncer à son déplacement plutôt que de subir un tel affront. À un moment, on s'est demandé si l'Iran allait envoyer des représentants, mais le fait que le vice-président américain se déplace voudrait dire qu'il va rencontrer des gens. Bonne prise de sang, mélindalien. Dans le chat. Les deux camps bluffent à leur façon, comme il se doit dans ce genre d'exercice diplomatique. La Maison Blanche, qu'est-ce que cherchent les États-Unis? Qu'est-ce que cherche Trump? Cherche désespérément un happy end hollywoodien pour s'extirper de cette guerre coûteuse, dont chacun des objectifs initiaux, changement de régime, raté, destruction du programme balistique, raté, anéantissement des capacités nucléaires, raté, n'a été atteint malgré la supériorité militaire écrasante des forces israélo-américaines. Si le cinéma est bien l'art de sculpter dans le temps, selon la formule d'Andrei Tarkovsky, le régime iranien cherche au contraire à allonger la durée du film. Trump, lui, il veut que ça s'arrête, en raison des conséquences notamment sur l'économie américaine, voilà, et sur le regard des Américains, de plus en plus opposés à ce conflit. Voilà, et le régime iranien cherche au contraire à jouer la montre, à allonger la durée du film, persuadé que le temps joue pour lui. La simple résistance de la République islamique à cette guerre déclenchée par les États-Unis et Israël, le grand Satan et le petit Satan, comme les appellent l'Iran depuis toujours, étant célébrée en soi comme une glorieuse victoire. Les échanges entre Téhéran et Washington, en tout cas ceux rendus publics, se focalisent sur deux points de désaccord. Parlons un petit peu, rentrons un peu dans le détail. Premièrement, la question du programme nucléaire iranien, qui est une question au cœur de la tension dans la région depuis toujours. Et en particulier le sort des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, hein, selon la IEA, profondément enfoui, difficilement accessible, mais pas détruit à ce jour par les frappes américaines. Donald Trump a assuré vendredi que les Iraniens auraient accepté de remettre ce qu'il appelle cette poussière nucléaire. Téhéran a catégoriquement démenti, refusant de renoncer à ce programme qui est devenu l'étendard du régime et le symbole de la souveraineté iranienne menacée. Donc, première question, le nucléaire iranien. Trump veut absolument que l'Iran s'engage à renoncer à son programme militaire nucléaire iranien, hein, voire même à tout programme nucléaire iranien, même civil. Hein, ce programme nucléaire civil iranien accusé depuis des années d'être justement un paravent permettant à Téhéran de développer son programme militaire nucléaire. Et l'Iran, de son côté, depuis le début de cette négociation, dit il n'en est pas question. Voilà. Deuxième sujet de contentieux, la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, dont l'étranglement fait tousser. Désolé. Effets spéciaux aussi dans ce chat. L'économie mondiale depuis un mois et demi. C'est dans ce couloir maritime stratégique situé au sud de l'Iran que s'est déplacée ces derniers jours la guerre du Golfe. Les Iraniens ont annoncé rouvrir vendredi puis refermer samedi le passage des cargos. Depuis la semaine dernière, les Américains imposent également leur propre blocus, chacun son blocus, à la sortie est d'Ormuz, empêchant les navires qui quittent les ports iraniens de franchir le détroit. Dimanche, la situation s'est tendue avec l'arraisonnement du Tuska, qui est un cargo qui battait pavillon iranien par un navire américain, hein, qui aurait tenté de forcer le blocus, refusant de faire demi-tour malgré les avertissements. Pour l'immobiliser, un navire américain a endommagé le système de propulsion du navire iranien en tirant plusieurs salves d'obus avant d'en prendre le contrôle. C'est tendu. Les forces armées de la République islamique d'Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains, a menacé le porte-parole de l'état-major iranien, accusant les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu. À entendre les uns et les autres, celui-ci ne tient plus qu'à un fil, mais qui a vraiment intérêt à le casser? Voilà où on en est. Fut-on écrit dans le chat, ça c'est une partie de risque qui se passe mal, je reconnais. Voilà où on en est. Des négociations compliquées, voilà, avec des points de blocage importants. On voit mal là maintenant, à l'heure où on parle, 10h14, mardi matin, ce qui pourrait mener à la fin de ce conflit. Voilà. Mais évidemment, on n'est pas dans les négociations. Et on n'est pas dans la tête, surtout de ceux qui négocient. Je vous lis et on enchaîne avec Gaza. Quelqu'un me disait que Trump avait déjà repoussé l'ultimatum à mercredi. Je sais, de toute façon, la nuit de mardi ou mercredi, ça ne change rien. Hein. Non, si c'est reporté, ce sera d'une semaine ou deux, sinon ça n'a aucun intérêt. Hier? Oui, mais enfin, alors, quelle est la différence entre la nuit de mardi à mercredi ou mercredi? Là, je chipote, mais pour le coup, je m'en. Hein. Peut-être qu'il avait du golf, peut-être qu'il avait une partie de golf. Il avait peut-être ou un match de MMA? Je sais pas. Pour le coup, ça ne changera pas grand-chose, ça. Je vais aller voir cette info parce que du coup, c'est par rapport à ce qu'on attend demain. Trump. Mercredi. Mercredi. You're right. Midi libre. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis reporté à mercredi soir. Bon, ça gagne 24 heures. Ça gagne 24 heures. Merci pour l'info du coup. Merci Enzo pour le soutien à l'instant. Merci Paradis Bleu pour le troisième mois. Merci Nymphéro62 pour le 24e mois. Merci pour ton message qui me touche. Merci Mac. Alors ça peut être Mac Douglas, mais c'était un cousin de Mac Douglas qui s'appelle Mac et plus loin. Et on fait une pause entre les deux. Et Kate. Merci pour le deuxième mois. Mac. Et Kate. Merci Evernas Biscotte à l'instant. Merci Zacolon. Merci. Oui, tout à fait. Encore un Écossais. Mm-hmm. Donc le président américain. A déclaré que la fin du cessez-le-feu était repoussée à mercredi soir. Donc ça gagne 24 heures. Ok. D'accord. Demain matin, on fera le point sur la négociation, bien sûr. Sachant que demain matin, il y aura une revue de presse plus courte hein, quand il y a MVP, que vous voyez ici, là, avec un joli MVP demain. En général, la revue de presse est de 8h30 à 10h, 1h30. Donc là, au niveau de l'intro, on va plus vite. Hein, et ça charbonne. Je voudrais vous parler maintenant de Gaza. Parce que c'est une des choses qu'on fait ici, je vous le disais. Un conflit ne chasse pas l'autre et la guerre du Moyen-Orient ne doit pas nous faire oublier d'autres conflits actuellement comme l'Ukraine et comme ce qui se passe à Gaza. Et ce matin, je tombe sur cet article du Monde, a priori qui semble me parler du plan de paix de Trump pour Gaza qui, pour l'instant, ne s'applique pas. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Un plan de paix de Trump qui fonctionne pas. Mais en fait, dans cet article, on apprend beaucoup plus de choses. Dans la bande de Gaza, le plan de paix de Trump dans les limbes, donc c'est le titre de cet article du Monde, plus de 700, et on apprend sur tout ça. On apprend sur tout ça. Plus de 750 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis la trêve d'octobre. Voilà, donc vous avez vu, grâce à l'équipe, on a mis des guillemets dans le titre, là, à trêve. C'est une trêve. C'est une trêve où on tue, quoi. C'est, normalement, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... 750 morts. Depuis octobre, les discussions sur le désarmement du Hamas patinent. Voilà. Alors, je vous préviens, c'est assez violent, c'est assez fort, notamment le début de l'article. C'est parti. C'est sous les cris terrorisés des enfants que le professeur Eman Riyan a emporté Rittaj, donc Rittaj, c'est une petite fille, je crois, dans ses bras pour l'emmener à l'hôpital. Les vidéos qu'il a partagées par téléphone avec le journal Le Monde le montrent tenant le corps inerte de l'enfant de 9 ans, au regard figé et à la bouche débordante de sang. Le Monde rappelle que les autorités israéliennes interdisent l'accès de l'enclave à la presse internationale depuis maintenant 2 ans et demi. Mais à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, que donc le professeur Ayman Riyan a dû rejoindre sur une charrette tirée par un âne, faute de véhicule disponible, la petite fille a été déclarée morte. 9 ans. Le 9 avril, Rittaj Riyan a reçu une balle dans la bouche alors qu'elle suivait son cours de mathématiques sous une tente dans une école improvisée de Beit Laya. Les tirs venaient de la zone contrôlée par l'armée israélienne, selon les témoins. Contactés à plusieurs reprises par Le Monde, l'armée n'a pas répondu. La scène me hante. Je ne suis pas capable de retourner à l'école, mon fils non plus, la moitié des élèves ne vient plus, témoigne l'enseignant, contacté à distance comme tous les témoins de cet article, puisque Israël interdit à la presse internationale de se rendre à Gaza. Les parents de Rittaj, eux, ne se remettent pas du choc. Ma fille venait de reprendre les cours après plus de 2 ans d'interruption due à la destruction des écoles. Mais les Israéliens ne veulent pas que nos enfants s'éduquent, ils veulent les tuer, confie sa mère Ola. Cette petite fille de 9 ans, Rittaj Riyan, fait partie des dernières victimes d'un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Selon les autorités locales, près de 760 personnes ont péri sous le feu de l'armée israélienne depuis le 10 octobre 2025, date d'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Du côté israélien, 5 soldats sont morts, selon l'armée. Au total, plus de 72 200 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités de l'enclave, chiffre corroboré par les organisations internationales. La mort de l'enfant a fait réagir le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, tout comme celui du journaliste d'Al Jazeera Mohamed Ouacha, tué par un drone israélien dans la ville de Gaza le 8 avril, ou celle de Majdi Alsan, un conducteur abattu deux jours plus tôt à l'est de Khan Younes, alors qu'il transportait des employés de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Vendredi 17 avril, donc tout proche de nous, deux chauffeurs de camions employés par l'UNICEF pour livrer de l'eau potable à des familles ont aussi été tués dans le nord de l'enclave. Merci le Pralo pour le raid. Le schéma incessant des tueries reflète un mépris continu pour les vies palestiniennes, facilité par une impunité généralisée, déclarait Volker Türk, qui est le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc voilà où on en est de Gaza. Ce constat cinglant intervient 6 mois après le lancement du plan de paix de Donald Trump, dont l'administration a annoncé la seconde phase le 14 janvier. Pourtant, si la première étape s'est achevée avec la remise du dernier otage israélien par le Hamas, la clause exigeant l'arrêt immédiat des hostilités par les deux parties n'a pas été respectée par Israël. Se déplacer est devenu en soi une activité mortelle. Des cas de Palestiniens tués par des forces israéliennes alors qu'ils marchaient ou conduisaient sont recensés chaque jour, a poursuivi M. Türk, donc de l'ONU, qualifiant de crime de guerre le ciblage des civils en raison de leur proximité avec la soi-disant ligne jaune. Retrancher d'ailleurs ce tracé, donc la ligne jaune à l'est de la bande de Gaza, les troupes d'occupation tirent sur toute personne s'en approchant. Censé se retirer progressivement de l'enclave dans le cadre de la phase 2 du plan de paix, parallèlement à la démilitarisation du Hamas qui gère la partie ouest de l'enclave, l'armée israélienne contrôle encore près de 60% du territoire. Ce versant oriental fait désormais office de zone tampon entre la bande de Gaza et l'État hébreu. L'armée israélienne y rase méthodiquement toute infrastructure subsistante. Une enquête du quotidien israélien Haaretz du 26 mars étaye les craintes de voir cette ligne jaune se transformer en frontière durable. Le journal israélien a documenté la construction de 32 bases militaires israéliennes et d'une barrière de 17 km. La cristallisation du conflit enlise les discussions sur la deuxième phase du plan Trump, parce que vous voyez que la première n'est pas appliquée, lequel observe le silence sur le dossier. Donc Trump parle beaucoup du Moyen-Orient actuellement, mais ne pipe plus mot de ce qui se passe à Gaza. Bloqué au Caire, le comité national, donc composé de technocrates palestiniens, qui est censé assurer le pouvoir à Gaza, n'est toujours pas autorisé par Israël à entrer dans l'enclave pour exercer son rôle d'administrateur transitoire. Les négociations menées en Égypte sur le désarmement du Hamas, pierre angulaire de la deuxième étape du plan, achoppent sur la remise des armes légères encore entre les mains du Hamas et d'autres groupes armés de Gaza. Le Hamas au pouvoir dans l'enclave depuis 2007 refuse de se désarmer, estimant que la feuille de route revient à exiger sa reddition sans garantir le respect par l'État hébreu des engagements de la phase 1, soit l'arrêt des violations du cessez-le-feu et de l'entrave des convois humanitaires. Dans une interview donnée le 17 avril, le haut représentant pour Gaza au sein du Conseil de la paix a indiqué que le principal obstacle à l'arrivée de l'aide à la population gazaoui et aux hôpitaux était imputable aux restrictions israéliennes, notamment par le biais de la classification des produits à double usage, civils et militaires, qu'il qualifie de prétexte. La situation humanitaire commençait à peine à s'améliorer avant qu'Israël ne prenne des mesures sécuritaires draconiennes lors du lancement de son offensive contre l'Iran et les États-Unis, avec les États-Unis, le 28 février. Il y a Ravi Deligonès qui me dit « Profite, ça m'émue, bientôt un texte similaire à la loi Yadan pointera le... » Ok. Oui. Oui. Ouais, Ravi, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'était un peu limite, là. Mais ici, on le dit, si demain, une loi comparable à la loi Yadan... Ravi, je te connais, tu es un habitué de la chaîne. C'est la première fois que je vois un message comme ça écrit par toi. D'ailleurs, je le supprime. Alors, je vais demander au modérateur de le supprimer. Parce que il y a. Je suis un peu surpris. Il a fait exprès pour que ce ne soit pas mal compris. J'entends. J'entends. Et tu t'excuses d'ailleurs. Ton historique parle pour toi. Mais il est quand même maladroit. Donc ce message que je n'ai pas eu dans son intégralité. Voilà. Ouais. Donc, si demain une loi type loi Yadan interdit toute critique de ce que fait l'armée israélienne, le gouvernement Netanyahou, notamment en direction des Palestiniens, hein, puisque il se dit que l'essentiel de la loi Yadan pourrait être repris dans un projet de loi gouvernemental, ici on continuera à lire ce type d'article. Bien sûr. Voilà. C'est pour répondre à la question qui était posée à l'instant. Je continue. L'entrée de l'aide fournie par les Nations Unies a chuté de 37% entre le premier et le second trimestre suivant l'entrée en vigueur du plan de paix. Donc on nous dit, c'est quand même un papier qui nous dit que depuis notamment la guerre contre l'Iran, tout est fait pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver aux Palestiniens, pour résumer. Depuis 6 mois, les autorités de l'enclave ont recensé une moyenne quotidienne de 227 camions, loin des 600 rotations jugées nécessaires. Il s'agit aussi de diversité, d'accessibilité et de la mesure dans laquelle notre travail est facilité, déclare un porte-parole de l'OCHA. Ça, c'est pour l'aide humanitaire. La restriction du territoire, dont près de 80% des immeubles ont été détruits, selon l'ONU, est, elle, conditionnée au désarmement du Hamas. La grande majorité des 2,2 millions de Gazaouis, dont plus d'un million, se concentre toujours dans le camp d'Al-Mawassi. 1 million de Gazaouis dans un camp, en bord de mer, vit sous des tentes entourées de montagnes de détritus et de débris. Les infections cutanées, telles que la gale et les poux, ravagent la population en proie aux infestations de rongeurs. Ces pathologies de la misère viennent saturer un système de soins déjà moribond, qui ne survit que grâce aux hôpitaux de campagne gérés par les ONG internationales. Le génocide continue, mais à un rythme plus lent, et surtout dont l'indifférence de la communauté internationale, estime le journaliste palestinien francophone Rami Abou Jamous, qui vit toujours à Gaza. Voilà. Je pensais tomber dans le monde sur un article sur la non-application du plan de paix pour Gaza de Trump, et en fait, on a une photographie à l'instant T de ce qui se passe toujours à Gaza, et tout le monde sera d'accord pour dire que c'est monstrueux. Je vous lis. Je ne connais pas bien, mais en gros, si la loi Yadan passe, est-ce que tu n'auras plus le droit d'écrire ou lire du mal de ce que fait le gouvernement israélien à la liberté d'expression, demande Alex02. Alors, c'est plus compliqué que ça. D'abord, la loi Yadan ne peut pas passer parce que la loi Yadan a été retirée. Voilà. Donc, ce n'est pas le débat. Mais le gouvernement a dit qu'il allait reprendre le contenu de cette loi avec un projet gouvernemental qui s'appellera plus loi Yadan, mais qui pourrait revenir en mai ou en juin, je ne sais plus. Le problème de ce texte initial de la loi Yadan, c'est qu'il était flou et pouvait, sous couvert effectivement de lutter, ce qui est essentiel, ce qui est important, contre l'antisémitisme et les nouvelles formes d'antisémitisme, et là vous ne me ferez pas dire que ce n'est pas essentiel, hein, ceux qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France. Donc le problème, c'est que le rédigé de ce texte est suffisamment flou pour que, sous couvert de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, eh bien on puisse s'en prendre à toute critique contre Israël, l'État hébreu, le gouvernement Netanyahou, notamment dans sa politique contre les Palestiniens ou encore dans sa politique internationale. Voilà. Donc on surveille ça avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est le fameux mot implicitement, pas la patix. Dans ce texte, il y a un mot qui est très gênant en termes. Le droit doit être clair. Le droit doit fixer des règles clairement. Dans ce texte, à un moment, il y a un implicitement qui ne va pas. Voilà. Et donc, où on s'en remet à la sagesse du juge pour dire si y a antisémitisme ou pas. Quoi. La règle de droit doit être plus claire que ça. Qu'est-ce Captain Harlock, salut, nous dit ça va revenir juste avant l'été, passer directement au Sénat, puis une motion de rejet à l'Assemblée, commission mixte paritaire et vote sans débat. Je vois que tu connais bien le processus, effectivement, qui permet de contourner un petit peu la représentation nationale. Si c'est le cas, nous, on fera la revue de presse de toute façon tout l'été. Si jamais ça se passe, on en parlera ici et on n'en parlera pas qu'une fois. Les lois existantes ne suffisent-elles pas pour lutter contre l'antisémitisme ? Demande Cyril. C'est ce que disent beaucoup de personnes, effectivement. Je vous lis. Alors, il y a aussi un monde où ça peut être censuré, comme le dit Camille, par le Conseil constitutionnel. Et Déficateur me dit, il y a aussi une tentative de pétition sur le site de l'Assemblée qui a dépassé le seuil de 500 000 signatures, mais l'Assemblée a décidé qu'il n'y aurait pas de débat non plus. Alors, Déficateur, tu me surprends parce que toi, tu es toujours carré sur les trucs, hyper carré, plus carré que moi. Tu parles de 500 000, mais je pense qu'on est à plus de 700 000 déjà. Et tu parles de tentative de pétition, ça n'est pas une tentative de pétition, c'est une pétition déposée sur le site de l'Assemblée. Et la loi, normalement, passé un certain niveau, permet, qui est de 500 000, c'est peut-être ce que tu voulais dire, permet à l'Assemblée de s'en emparer pour faire un débat sur le texte de la pétition. Ce qui n'a pas été décidé de faire. Mais je pense que tu devais parler du 500 000, en fait, ouais. Mais ce n'est pas une tentative de pétition, c'est une pétition. La pétition, elle existe. En revanche, l'Assemblée ne s'en est pas emparée pour faire un débat sur la pétition. Un débat sur la pétition. Ah, qui a dépassé le seuil de. C'est pour ça que tu parlais du seuil, je comprends. Mais ce n'est pas une tentative, par contre. C'est une pétition. C'est bien ça le scandale, d'ailleurs. Puisque l'Assemblée ne s'est pas emparée, non pas de cette tentative de pétition, mais d'une pétition. Il y a plus de 700 000 personnes qui ont signé. Ça, c'est un problème. Après, les gens qui ont dit c'est pas la peine d'en débattre, ont dit ben c'est le même débat qu'on va avoir sur la loi. Pourquoi faire un débat sur le texte de la pétition puisqu'on va avoir un débat sur la loi? Sauf qu'il n'y a pas eu débat sur la loi parce que la proposition de loi a été retirée. Donc ouais. Après, on dit aux Français ah, on ne comprend pas le fossé grandissant entre les élus et les citoyens. Bah, quand vous avez 700 000 citoyens qui signent une pétition, les gars, faites un débat dessus. Pardon, hein. C'est pas démago ce que je dis, hein. C'est pas du poujadisme. Voilà. Vous trouvez bien 6 mois pour faire une commission à l'Assemblée sur du gel public en recevant 234 personnes, mobilisant des moyens publics et de l'argent public. Vous allez bien trouver 2-3 heures pour faire un débat à l'Assemblée. Pardon, je suis un peu 700 000 personnes. Vous avez trouvé le temps. Ouais, là, il y a un truc qui ne va pas. Oui, ça, c'est des magots, par contre, exactement, Dor Jordan, mais ça fait du bien. Voilà, comme le dit Defecator, du coup, c'est démobilisant pour les citoyens qui peuvent finir par se dire les pétitions, ça sert à rien finalement. Exactement. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Quand 700 000 citoyens se cassent le cul pour signer un truc, c'est en fait c'est une façon de les injurier, hein, de dire oui, bon, enfin bon, ça va quoi. Et ça, c'est une des manières dont se détricote le lien aussi entre les citoyens et les élus, et quelque part au-delà entre les citoyens et la République et la démocratie. Donc oui. Ça, c'est une bêtise, ça. Qu'est-ce que ça leur coûte de faire un débat à l'Assemblée là-dessus, en vrai? D'autant que c'est la deuxième plus grosse pétition, me dit Nespose. Oui, tout à fait, la plus. C'est celle contre la loi sur les insecticides, là, comment ça s'appelait? La loi du. Ah, je ne l'ai plus. Du quelque chose. Duplomb, le fameux sénateur. Duplomb, voilà. Donc là, oui, on a un souci, oui. Là, on a un souci. Voilà en tout cas pour ce papier sur Gaza. Voilà. Voilà. Et la suite de la proposition de loi Yadan, dans la mesure où le gouvernement a dit qu'il allait reprendre les termes de cette proposition de loi pour faire un projet de loi qui pourrait arriver juste avant la fin de l'été, ça on va surveiller avec beaucoup d'attention bien sûr. Les médias français vont le faire, en tout cas ceux que je consomme, et on le fera aussi ici. Ok ? On va sur le troisième gros dossier, et ça on va le partager avec nos amis de YouTube. Amis de YouTube, bonjour, merci d'être là. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. C'est la grande revue de presse tous les matins, 9h midi en gros, depuis 5 ans. Et chaque jour, on partage aussi avec vous une info, où on fait un coup de projecteur spécialement pour nos amis de YouTube, parce que vous êtes nos amis. Et là, on voulait faire un coup de projecteur sur, et le chat qui vous dit bonjour, sur l'opération séduction du Rassemblement National, donc le parti présidé par Jordan Bardella, avec Marine Le Pen qui dirige le groupe des députés RN à l'Assemblée, en direction des grands patrons, et notamment du MEDEF, le syndicat patronal qui représente les grands patrons. Alors, vous voyez là que je vous ai mis trois dossiers, trois articles, parce que c'est un sujet complexe sur lequel on va prendre le temps. Voilà. Donc on a un article dans Les Échos qui nous donne un petit peu les faits. Bardella en opération séduction au MEDEF. On a une analyse dans Le Monde, le pas de deux du RN et des grands patrons. Et on a un dossier, un gros dossier également dans Mediapart, assez éditorialisé, assez engagé, qui nous explique pourquoi les milieux d'affaires préparent leur ralliement à l'extrême droite. Le patron de la Maïf a très bien réagi, me dit Zirtaeb dans le chat. On en a déjà parlé ici. Le seul grand patron, entre guillemets, qui a pris position contre le fait que désormais le MEDEF et les grands patrons français recevaient les représentants du RN, alors que longtemps ils ne voulaient pas le faire. Le seul patron qui l'a fait, tu as raison, c'est le patron de la Maïf, mais on en a déjà parlé ici, la Mutuelle. Commençons peut-être par les faits. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'article des Échos, Bardella en opération séduction au MEDEF. Le président du RN a été reçu lundi à déjeuner par le bureau de l'organisation patronale. Bon, là vous allez me dire, certains, bah et alors ? Le MEDEF reçoit les partis, tous les partis, c'est normal, sauf que c'est une première. Hein ? C'est-à-dire ce déjeuner où Bardella a été reçu par le bureau du MEDEF, ça n'est jamais arrivé. Donc, on peut nous expliquer aujourd'hui que c'est normal, mais dans ce cas-là, pourquoi avant ils ne l'ont pas fait ? Justement, c'est avec ces articles qu'on va essayer de répondre à cette question. Souhaitant asseoir sa crédibilité aux yeux des milieux économiques, le RN a infléchi son discours sur les entreprises, nous disent les Échos. Commençons par cet article. Des échanges courtois et nécessaires à quelques mois d'échéances électorales qui vont être absolument majeures pour l'avenir de la France. À la sortie de son déjeuner au MEDEF lundi, le président du RN, Jordan Bardella, ne s'est pas montré très disert, donc très loquace, sur le contenu de ses échanges avec la douzaine de participants, membres du bureau du MEDEF, qui ont duré plus de 2 heures. Initialement prévu le 2 mars, reporté en raison de la guerre en Iran, ce déjeuner avait été très commenté car c'est la première fois que le MEDEF recevait officiellement un dirigeant du parti La Flamme. Jamais dans son histoire, le syndicat patronal n'avait reçu un représentant du RN, officiellement. Laurence Parisot, qui a précédé Patrick Martin à la tête de l'organisation patronale, s'était toujours refusé à telle rencontre au nom du cordon sanitaire à opposer à l'extrême droite. L'entrée en force du RN à l'Assemblée nationale a changé la donne aux yeux du patronat. Qu'est-ce qui a changé entre Laurence Parisot et Patrice Martin, entre le fait qu'aujourd'hui, avant le MEDEF ne voulait pas recevoir le RN et maintenant qu'ils le font, ben c'est peut-être le nombre de députés RN à l'Assemblée, estime Le Monde. Peut-on exclure le RN de nos contacts politiques ? Évidemment non, parce que c'est une formation qui pèse lourd au Parlement. Bah, c'est l'explication qui est donnée justement par Patrick Martin, le patron du MEDEF, tout en se défendant d'avoir pris massivement parti pour le RN. Discours également endossé par le président de la CPME, donc là c'est le syndicat patronal des petites et moyennes entreprises, Amir Reza Tofighi, qui dit « On parle aujourd'hui avec tous ceux qui sont au pouvoir ou briguent à être au pouvoir parce qu'on défend les entreprises ». Il y a quelques jours, le 7 avril, c'était, avant Bardella, Marine Le Pen, qui avait été reçue par une quinzaine de membres du club de grands patrons, entreprises et cités. Donc là, on avait parmi les patrons des plus grosses sociétés françaises, notamment du CAC 40. Patron de LVMH, patron de de Renault notamment. Total Energy, si je dis pas de bêtises aussi. Mais on ira voir tout à l'heure précisément. Les rencontres entre les chefs d'entreprise et les dirigeants du RN sont longtemps restées taboues, et pas seulement côté patronal. Soucieuse de séduire son électorat populaire, donc là, on va se poser la question du positionnement économique du RN, de l'ancien FN. Est-ce que ce parti est proche, on va dire, des classes populaires, voilà, et a un programme économique qui les favorise, y compris par exemple en taxant les grandes entreprises, ou au contraire, est-ce que ce parti est proche des entreprises, notamment des grandes entreprises? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est pas très très clair. Voilà. Merde, j'ai quelqu'un qui fait des travaux dans la cour, bougez pas. À moins que ce soit une attaque à la scie sauteuse contre ce studio, je reviens. Parce que pour faire simple, Marine Le Pen a toujours prôné un programme économique populaire, on va dire, proche des classes populaires. Et Bardella, lui, est beaucoup plus proche des milieux d'entreprise et d'affaires. Alors comme ce sont les deux têtes de ce parti, la question c'est, mais alors c'est quoi le programme économique du RN? Bon, question posée. On essaiera de répondre à cette question ce matin. Les rencontres donc entre les chefs d'entreprise et les dirigeants du RN sont longtemps restées taboues, et pas seulement côté patronal. Soucieuse de séduire son électorat populaire, Marine Le Pen considérait volontiers les grandes entreprises comme partie d'un système à combattre. Donc là, ça nous présente Marine Le Pen comme pas proche des grandes entreprises. Aujourd'hui encore, certains de ses lieutenants estiment vains les efforts déployés pour séduire le patronat. On ferait mieux de se concentrer sur le grand public, on n'arrivera jamais à les convaincre, souffle l'un des proches de Marine Le Pen. Déjeuners et dîners plus ou moins assumés sont toutefois multipliés depuis un ou deux ans. Il s'accélère aujourd'hui à un an de la présidentielle en cas d'une crédibilité qui leur manque sur le plan économique. Il y a des gens qui peuvent ne pas voter RN, par exemple, doivent estimer les dirigeants du parti d'extrême droite en se disant « Ah ouais, mais leur programme économique ne tient pas la route ». En cas d'une crédibilité qui leur manque sur le plan économique, les dirigeants du RN se sont entourés de conseillers aux diplômes prestigieux, hein, et pour certains passés par le monde de l'entreprise, comme François Durvy, qui vient de rejoindre officiellement le parti à la flamme comme conseiller spécial, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est polytechnicien. Il s'agit de comprendre les besoins des entreprises et les freins auxquels elles s'exposent, ainsi que d'entendre nos suggestions, dit ce monsieur, qui était au déjeuner du MEDEF. Tous les grands sujets socio-économiques français ont été abordés dans un dialogue assez constructif, se félicite-t-il. Le parti à la flamme se défend de tout renoncement à son programme économique, dont certains volets sur l'Union européenne ou la réforme des retraites restent pourtant profondément urticants aux yeux des milieux d'affaires. Donc ça c'est historiquement dans le programme du RN et ex-FN, il y a des choses qui ne plaisent pas au patron, notamment le discours sur l'Union européenne. Rappelons que longtemps le parti d'extrême droite était pour un retrait, une sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro. Bon, ça a priori c'est plus d'actualité. Et puis il y a la question des retraites aussi, voilà, la retraite à 60 ans pour certains dans certaines conditions, qui est un des dossiers portés par Marine Le Pen et qui n'est pas non plus validé par le patronat. Mais, donc ça c'est un discours, hein, puisqu'on parle de gens qui ne sont pas au pouvoir, forcément c'est un discours. Mais ce discours, il a été infléchi par Bardella, qui pour résumer est beaucoup plus proche des milieux d'affaires. Je crois, dit-il, dans la liberté d'entreprendre. Je n'ai pas l'entreprise honteuse, a-t-il dit hier à son arrivée au déjeuner avec le MEDEF. Et la semaine dernière sur France 2, il s'était dit fier de grands groupes français qui créent des milliers d'emplois et font la fierté du génie français en Europe, mais aussi partout dans le monde. Le président du RN espère même conduire un projet de redressement de l'économie française avec les entreprises, cherchant à les convaincre sur les thèmes plus porteurs à leurs yeux de la lourdeur bureaucratique ou du trop-plein de normes. Il a annoncé avoir demandé à François Durvy, dont je vous parlais tout à l'heure, Ambroise de Rancourt, qui est le directeur de cabinet de Marine Le Pen, et Alexandre Loupet, député de Moselle, de rencontrer les principales fédérations et organisations représentant le monde économique, donc pas seulement le MEDEF, pour élaborer un grand projet d'ordonnance de simplification à publier dès le début du mandat. Est-ce que c'est de matière à moins faire peur aux patrons? Si certains sont sortis du dîner avec Marine Le Pen, donc confondez pas le déjeuner et Bardella et le dîner de Marine Le Pen, hein, ces deux moments. Si certains sont sortis du dîner avec Marine Le Pen pas du tout convaincus Selon l'un de leurs conseillers, des participants au déjeuner du MEDEF lundi ont trouvé Bardella plus solide, mais aussi plus malléable que la chef de file du parti d'extrême droite. Dans un papier qu'on lira ce matin, on nous dit que les patrons verraient, certains patrons pardon, verraient plutôt d'un bon œil une élection de Bardella, hein, mais ils sont beaucoup moins chauds pour une élection de Marine Le Pen. Voilà. On va lire cet édito-là de Cécile Cornudet avant d'enchaîner. Je vous lis un petit peu avant de continuer. MMG me dit certains patrons étaient gênés d'avoir accepté de dîner avec Marine Le Pen. Non. Ils sont pas gênés. Non, si tu acceptes une invitation à dîner, tu peux pas être gêné par l'invitation à dîner. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'aller dîner. Alors qu'avant, ils refusaient de le faire. Non, ils ont été. Ils ont laissé fuiter, notamment dans l'Opinion, on a parlé hier, le journal de l'Opinion a parlé du fait qu'ils avaient été déçus par cette rencontre avec Marine Le Pen, qui reste justement sur des positions qui selon eux, ne sont pas celles qu'ils souhaitent, favorables aux grandes entreprises. Mais. Ouais. Mais c'est assumé. Je vous lis. Tu peux être gêné car quand tu es neutre, tu peux pas refuser. Ah ben si, il y a des patrons qui ont refusé d'aller à ce dîner, Maximilien. Non, faut pas inventer des choses, par contre. Ce dîner... Parlons du dîner de Marine Le Pen. Il y avait quelques patrons à ce dîner. Il y a des patrons qui n'y étaient pas. Il y a des patrons qui ont refusé. Il y a le patron de la Maïf, par exemple, qui lui a pris la plume pour dire dans la presse tout le mal qu'il pensait de ce rapprochement. C'était pas obligé d'aller à un dîner, hein. Tu peux sauter le dîner aussi. Analyse de Cécile Cornudet dans Les Échos. Ce que nous dit ce dialogue patron-RN. L'économie est le point faible du RN, point interrogation. Une chance parie une partie du monde patronal, en pensant pouvoir la réorienter. Mieux vaut Bardella que Le Pen dès lors. Oui, c'est cette analyse que certains patrons, et là j'insiste sur le certain, parce qu'à un moment... Il faut faire attention aux raccourcis. Le grand patronat ne représente pas l'intégralité des entreprises françaises. Tous les patrons ne partagent pas cette analyse. Donc, à un moment, il faudra mettre un peu de subtilité là-dedans, quoi. Lisons. Dimanche soir, Bruno Retailleau est désigné par 40 000 militants pour porter les couleurs de LR à la présidentielle. On en parlait hier. Lundi midi, le MEDEF déjeune avec Bardella, patron du RN. Le hasard du calendrier dit bien le sentiment partagé. C'est au RN que ça se passe. Pas à LR. Si les chefs d'entreprise en 2 ans sont passés de la méfiance au dialogue nourri avec l'extrême droite, c'est d'abord parce que les autres partis ont déçu. Les partis en 2026 et 2017 en pire, ils sont tellement décrédibilisés à l'habitude de dire le LR Xavier Bertrand. L'incompréhension suscitée par la dissolution d'Emmanuel Macron ne s'est jamais dissipée. Quant au débat sur la taxe Zucman à l'automne, il a fini par faire de LFI le repoussoir absolu. Le RN, what else? D'autant qu'il a su surfer sur le désarroi patronal, démarche de main tendue, officiellement pro-business. Pendant longtemps, on n'a jamais eu aucune demande des autres. PS Bloc Central constatait il y a peu Patrick Martin, le patron du MEDEF. Plus possible, ce faisant, de traiter le RN en paria, défend Patrick Martin. Plus étonnant, en revanche, sont les contacts désormais réguliers avec le CAC 40. Seuls 7 grands patrons du CAC 40 gardent leur porte actuellement fermée au RN. C'est Alain Minc qui a fait le compte. Seule une grande voix s'est indignée publiquement, c'est ce que je vous disais, c'est le mutualiste, le patron de la Maïf, Pascal Demurger. On en avait parlé ici. Les patrons parlent au RN, données politiques majeures de cette pré-présidentielle. Voilà. Là, on n'est pas dans le jugement, c'est bien, pas bien. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. des cliquets en sauté. Et y ont contribué les mots doux de Nicolas Sarkozy sur Jordan Bardella, les victoires de Giorgia Meloni et de Donald Trump à l'extérieur. Populisme ne nuit pas forcément au business, en ont-ils déduit. Le tout est de savoir s'y préparer. Nous y sommes. Le dialogue entre patron et RN est tout sauf désintéressé. Dans les salons ouatés du tout Paris, les deux se tiennent par la barbichette, sans véritable confiance, mais avec le sentiment d'avoir peut-être tout à gagner à l'échange. De la crédibilité du côté du RN, encore une fois, le RN qui essaie de se débarrasser de cette étiquette en mode ah, mais ils n'ont pas de programme économique, c'est pas très très clair, voilà, ce serait une catastrophe économique. Si les grands patrons commencent à parler au RN, ça peut, comment dire, doucement affaiblir cet aspect négatif du RN. Donc crédibilité, une possibilité pour les patrons de peser sur la politique économique à venir. Le programme économique du RN n'a rien pour leur plaire, justement rien de mieux qu'un point faible. Le RN aura besoin d'expertise, de conseils, voire de pilotes, calculent certains. Lundi, à la fin du déjeuner, l'atmosphère était détendue. Les représentants du MEDEF ont trouvé Bardella plus rassurant à ce titre que Marine Le Pen la semaine dernière, plus pragmatique, plus malléable, ont rapporté certains. Mais que diront-ils si les juges autorisent finalement Marine Le Pen à se présenter? On le saura vers le 7 juillet, hein, on le suivra cet été. Hein, si le jugement en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen confirme l'inéligibilité de Marine Le Pen, ou au contraire si elle peut se qualifier. Hein. Au jeu de la barbichette, tous les coups ne sont pas gagnants, écrit Cécile Cornudet. On ne choisit pas son préféré pour la présidentielle, c'est la justice qui va décider. On peut s'être félicité d'une faiblesse en économie, avant de se rendre compte qu'en ouvrant le dialogue, on a obtenu l'effet inverse à celui recherché. Interlocuteur crédibilisé, programme inchangé. Dans les échos, on a Madame Cornudet qui, à mots choisis, dénonce un petit jeu entre une partie des grands patrons et le RN, un petit jeu dangereux. Alors, là où on commence à comprendre qu'une partie des grandes entreprises préférait un Bardella à une Marine Le Pen, c'est oublier que c'est pas eux qui vont décider. Ce n'est pas le RN qui va décider d'ailleurs, c'est la justice. Puisqu'il n'y a aucun monde où si la justice. Pardon, c'est mon épouse. Il n'y a aucun monde où si la justice autorise Marine Le Pen dans cette affaire à se présenter à la présidentielle, il n'y a aucun monde où Bardella pourra faire un poupouch en interne et il sera obligé de se ranger derrière une candidature de Marine Le Pen. C'est impossible. Voilà. Et à l'inverse, si Marine Le Pen ne peut pas y aller, vous savez ce qui va se passer. Voilà. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec le dossier du Monde, un éclairage du Monde sur le même sujet. Je vous lis un petit peu. On se rapproche de plus en plus d'une guerre interne au RN, j'ai l'impression. Je crois pas, Roy Jim. Je crois pas. Comme je viens de l'indiquer, je crois pas du tout à. C'est la justice, la décision de la justice du 7 juillet qui va choisir du candidat du parti à la présidentielle. Et si Marine Le Pen ne peut pas y aller, elle se rangera derrière Bardella pour l'aider à être élue. Et inversement. Alors, deuxième article, hein, encore une fois, excusez-moi d'être un peu long sur le sujet, mais il y a trois dossiers intéressants et qui s'éclairent les uns les autres, donc Les Échos, Le Monde et dans un instant Mediapart, Le Monde maintenant, qui parle de ce pas de deux du RN et des grands patrons, avec, c'est un peu le constat que font Les Échos aussi, hein, les entreprises qui veulent les grandes entreprises, si je puis me permettre, qui veulent peser plus sur le programme économique du parti, qui en profitent pour améliorer son image. Les grands patrons à l'extrême droite ont fini de se jauger à l'abri des regards. Désormais, c'est public. Ils dialoguent désormais au vu et au su de tout le monde à un an de la présidentielle. Chacun y voit son intérêt. Pour les premiers, peser sur le programme économique en cours d'élaboration de l'un des favoris du scrutin. Pour les seconds, décoller définitivement l'étiquette de paria de la politique française et neutraliser les critiques de cette influente corporation. Le rituel est immuable, la nouvelle de l'entrevue fuite, les milieux entrepreneuriaux se répandent dans la presse pour dénigrer leur interlocuteur, donc Marine Le Pen ou Bardella. Le RN se félicite de ses accès et de faire la pédagogie de son programme économique et les prises de rendez-vous continuent, c'est un petit théâtre assez bien rodé. Deux tablés en avril sont l'occasion pour chacun de se jauger. Lundi, la direction du MEDEF devait déjeuner avec Bardella, donc ça c'est un article qui a été écrit juste avant, vous l'avez compris. Le lobby patronal a lui-même communiqué le rendez-vous à la presse, hein, sans anticiper l'émotion suscitée. La chose n'est plus un événement, considère-t-il, soulignant ses rencontres dans le même cadre avec la France insoumise et l'invitation de Bardella à la rentrée du MEDEF à l'été 2025. Pour le MEDEF, zéro débat. La discussion avec laquelle son président Patrick Martin avait au printemps 2024, donc il y a un an, et plus que ça, un an et demi, ouais. Rencontrer Marine Le Pen, une première à l'époque, n'est plus de mise. Et signe d'un rapport de force qui se rééquilibre, Bardella n'entend pas se présenter au déjeuner en écolier qui vient recevoir les bons et les mauvais points. Ce ne sont pas nos examinateurs, on attend plutôt une co-construction du redressement de la France. Il y a un peu d'assurance là chez Bardella, qui dit qu'il ne vient pas draguer, qui vient co-discuter d'un programme économique. Ça prend la confiance. Le parti devait écrire aux représentants des filières économiques pour leur demander la liste des normes devant être, selon eux, abrogées pour libérer la croissance. Ça, c'est quand même un discours très pro-entreprise, très pro-business. Voilà. Et puis, il y a eu le dîner, le 7 avril, chez Drouhan, brasserie parisienne bien connue, des prix littéraires, où la crème des grands patrons a écouté Marine Le Pen discourir sur l'état du monde et des affaires. Hein, comme l'a révélé le Nouvel Obs, l'invitation avait été lancée un mois plus tôt au parti d'extrême droite. Ah, et c'est ce club de grands patrons qui a invité Marine Le Pen. L'invitation, elle vient du côté patronal. Voilà. L'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, était là. Lui, dont Marine Le Pen fustigeait pourtant en 2012 les velléités d'exil fiscal. Aujourd'hui, la majorité des enfants Arnault a déjà rencontré Jordan Bardella, raconte le même magazine. Une case de cocher, au même titre que l'invitation à l'hôtel particulier de Vincent Bolloré, honoré en octobre 2025, et vantée dans la Tribune dimanche, ou le rendez-vous avec Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, voilà, au même moment. Les grands noms du capitalisme français ne dédaignent plus le RN, qui le rend assez bien. Corgan, Nat Levy, Tom Réo, Star Phoenix, Dark Revanche, Rico Team, merci beaucoup pour les soutiens. Assez proche, la Marine Le Pen, la triple candidate à la présidentielle, a dit avoir trouvé le moment intéressant, ne pas avoir ressenti de pression particulière. C'était avant de lire le compte-rendu des agapes dans la presse, puisque les papiers qui sont sortis dans la presse après ce dîner, notamment dans l'Opinion hier, n'étaient pas très positifs. Et décrivaient des patrons fort tristounets, de constater que Marine Le Pen n'a pas tant changé que ça. Sur l'Europe ou la protection sociale, les divergences sont profondes, selon le récit fait au Monde, un fossé qui s'est révélé lors de la séance de questions-réponses après un discours introductif pro-business. Et Le Monde expliquait que de la dernière séquence budgétaire, le patronat a retenu le vote de taxe par le RN sur les multinationales, sur les super dividendes, sur la fortune improductive, davantage que la baisse massive des dépenses publiques et des impôts de production. Au RN, de rares optimistes espéraient que le CAC 40 aurait une épiphanie et verrait en Marine Le Pen un esprit brillant. Ils en sont pour leurs frais, mais certains s'en contentent, à l'image du député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, qui conseille la présidente du groupe RN à l'Assemblée sur les sujets économiques. Hein, et qui déclare, nous n'avons pas double discours, elle voit les gens, elle leur dit ce qu'elle pense, on peut s'adapter si on dit des bêtises, mais nous ne sommes pas des marchands de tapis. Vu de l'extrême droite, les comptes rendus mitigés sont négligeables au regard du gain estimé en matière d'image. Hein. Il suffit que Patrick Pouyanné, donc Patrick Pouyanné, si je ne dis pas de bêtises, c'est Total Energy, ait incité le reste de l'élite entrepreneuriale à rencontrer Marine Le Pen, preuve que l'entrevue bilatérale était réussie. Dans l'entourage de Jordan Bardella, on considère que le simple fait d'obtenir ces rendez-vous et qu'ils soient rendus publics fait que la séquence est bonne. Pour l'image du parti, bon ça on l'a bien compris, dans un premier temps, et pour ce qu'il ouvre comme perspective vis-à-vis du patronat dans un deuxième temps. Le but pour l'extrême droite, c'est de neutraliser les appels du patronat à lui faire barrage. Pour les liens entre le patronat et l'extrême droite, l'élection de 89 députés RN en 2022 a fait office d'accélérateur, en circonscription comme à Paris, c'est ce que disait aussi l'article des Échos tout à l'heure. Depuis, le niveau des rencontres de Marine Le Pen et Bardella est progressivement passé du cadre dirigeant au chef d'entreprise, de taille intermédiaire, avant d'atteindre le CAC 40 depuis 2025. Donc c'est assez récent. L'entourage du président du RN assure que la moitié des patrons des plus grandes entreprises françaises l'ont déjà rencontré. En direct, il arrive au chef d'entreprise de reprocher à Bardella ses mesures s'en prenant modérément au haut patrimoine et au rachat d'actions, ou à la réforme des retraites du RN, qui prévoit toujours de ramener l'âge légal de départ à 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans, ce dont le grand patronat ne veut pas entendre parler. Dans son dos, ils sont plus sévères, il est dans la séduction, disent certains grands patrons de Bardella, mais tous ceux qui l'ont vu disent qu'il n'a pas les compétences. Un autre habitué de ces cercles les décrit comme pas vraiment conquis, ni par Marine Le Pen, qu'il pense communiste, ni par Bardella, qui leur semble trop jeune, sans expérience, surtout dans le contexte international. Si le discours pro-business du trentenaire est apprécié, la cohérence générale de son programme économique n'est jamais perçue. Quand je vous disais tout à l'heure, le programme économique du RN, il est encore très flou, parfois contradictoire, et que c'est difficile de s'y retrouver, et quelqu'un, certains dans le chat me disent non, c'est très très clair, il est... c'est clairement un programme à droite, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Tous ne vont pas à la rencontre du RN avec le même état d'esprit. Certains, la majorité, viennent en curieux pour se faire une opinion par eux-mêmes sur sa vision économique. D'autres viennent pour peser sur le parti le moins préparé à l'exercice du pouvoir au moment où son programme pour 2027 est en cours de rédaction. C'est maintenant qu'il faut le faire, à la veille du rendez-vous démocratique le plus important de ces 50 dernières années, justifie le président d'un poids lourd du CAC 40, voilà, qui dit, bon, en gros, ne nous reprochez pas de rencontrer les dirigeants du RN. Voilà. Si jamais ils arrivent au pouvoir, il faut absolument qu'on pèse sur leur programme. Certains pensent à demain, les patrons de la défense, de l'aéronautique, de l'industrie lourde, plus dépendante de l'État et soucieux de placer leurs pions comme de sensibiliser les possibles futurs dirigeants à leurs intérêts. Tout s'est décoincé par les secteurs qui avaient un intérêt objectif à nous voir, hein, constate Jean-Philippe Tanguy, le RN. Dès 2023, Renaud Labaye, bras droit de Marine Le Pen, prédisait en grinçant « Le jour où on gagnera, le monde économique dira qu'il a été notre premier soutien. » Je vous lis, et on va voir le dossier de Mediapart sur le même sujet. Futong me dit « Non, non, le programme du RN est bien de droite économiquement, c'est juste les patrons qui tentent leur bullshit habituel. » Mais quel programme, celui de Bardella ou de Marine Le Pen? C'est ça le problème, parce que c'est pas le même. C'est assez rare d'avoir un parti avec deux programmes économiques, mais c'est le cas actuellement. Par définition, c'est un parti qui n'a jamais été au pouvoir, donc... Il peut y avoir toutes les contradictions possibles dans leur programme, comme ils n'ont jamais été en mesure de gouverner, voilà, on est obligé de s'en tenir au programme, aux déclarations d'intention, ou au vote à l'Assemblée. Et là aussi, les votes à l'Assemblée, bah, ils sont pas toujours très clairs. Je vous lis. Voilà, par exemple, Defecator nous dit, merci ami, que sur la question de l'euro, ils sont passés par toutes les positions possibles entre 2017 et 2022. Un jour, faut sortir de la zone euro, le lendemain, faut plus sortir. Voilà. Alors, pardon, mais c'est compliqué de vous expliquer le programme économique du RN quand il a tant évolué ces dernières années. C'est vraiment lequel? Celui d'aujourd'hui, celui d'hier, celui d'avant-hier, celui de Marine Le Pen, celui de Bardella? Pardon, hein, mais c'est compliqué de. Alors, il y a un propos militant qui peut estimer que, bon, bah voilà, on va affirmer que, par exemple, ce programme, il est de droite. Bon, ça, pour moi, c'est un discours qui n'est pas un discours de journaliste ou d'analyste, c'est un propos militant, et ça ne me choque pas en soi. Mais à l'épreuve des faits, ça me semble un peu compliqué, quoi. On enchaîne? Allez. On enchaîne avec le même sujet traité par Mediapart. Pour le coup, c'est un article très complet, mais c'est un article aussi assez militant, voilà, qui va plaire à certains et moins à d'autres. Let's go. Non, il faut que je passe ici. C'est parti. Pourquoi les milieux d'affaires préparent leur ralliement à l'extrême droite? Et là, vous dites, ouais, bah, c'est le même sujet que précédemment. C'est pas la même analyse. Alors que le MEDEF a longtemps appliqué un barrage républicain contre le RN, voilà, ça c'est ce qui s'est passé dans le passé, il reçoit ce lundi à déjeuner son président Bardella, c'est un article qui a été écrit le 20 avril, donc hier. Les grands patrons anticipent désormais l'accession au pouvoir du parti, bon bah ça on a compris, hein. Le Monde et les Échos sont d'accord, ils sont aussi de plus en plus séduits par le capitalisme libertarien états-unien, américain. C'est à n'en pas douter, écrit Mediapart, un basculement historique, et je suis assez d'accord avec ça. Alors que depuis la libération, le patronat français a toujours prétendu qu'il se refusait à tout contact avec les dirigeants des partis d'extrême droite français, une quinzaine des plus grands dirigeants d'entreprise de ce pays ont dîné le 7 avril avec Marine Le Pen. Et lundi, hier, il y a eu le déj entre Bardella et le MEDEF. Pour comprendre l'importance majeure de ces événements, il faut avoir à l'esprit un enseignement de l'histoire du siècle écoulé. Jamais l'extrême droite n'a accédé au pouvoir sans que les milieux financiers y consentent ou l'y aident. Comme ce fut le cas en Italie pour Benito Mussolini, 1883-1945, les milieux d'affaires italiens ont fait cause commune avec lui bien avant qu'il n'accède au pouvoir en 1922 et y ont fortement contribué. Ce fut le cas aussi en Allemagne pour Adolf Hitler. Comme l'historien Johann Chapoutot le documente méticuleusement dans son livre Les Irresponsables, tous les grands noms de la finance et de l'industrie allemande avaient pris fait et cause pour le chef du parti nazi, avant même qu'il n'installe son régime de terreur en 1933. Plus récemment, il y a l'exemple du Chili, de même nature. Les milieux d'affaires ont apporté leur soutien à Augusto Pinochet bien avant son coup d'État en 1973 et ont été vite récompensés sous la férule féroce de ce qu'on appelait les Chicago Boys à l'époque, ces économistes libéraux américains, le pays devenu le premier laboratoire d'expérimentation du néolibéralisme. En France, estime Mediapart, nous sommes précisément dans ce moment de bascule, sans doute décisif. Les cercles patronaux préparent leur ralliement à l'extrême droite et cherchent à en jauger les dirigeants. Certains grands patrons le font avec enthousiasme parce qu'ils sont acquis aux obsessions identitaires ou xénophobes du RN, d'autres avec résignation parce qu'ils enragent contre Macron depuis la dissolution et ne voient pas d'autre issue pour éviter un gouvernement de gauche. Longtemps secrète, puis pendant un temps discrète, les connexions entre le patronat et le RN sont désormais publiques et spectaculaires à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Bon, ça, les infos, on les a. Il manque Pinochet et on est bon là. Ah non, Alastair, il y avait Pinochet, t'as pas écouté. Pour apprécier l'importance de ce dîner, il suffit de connaître, écrit Mediapart, l'identité de ceux qui n'ont pas rechigné à s'afficher dans l'un des plus chics restaurants de la capitale, avec Marine Le Pen, héritière d'un parti fondé par son père, ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie, et par l'ancien Waffen-SS Pierre Bousquet. Parmi les convives, il y avait Bernard Arnault, le plus puissant, le plus riche des grands patrons français, donc c'est LVMH, si je ne dis pas de bêtises, qui avait jusque-là toujours fait savoir qu'il ne voulait pas rencontrer Marine Le Pen. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est la même personne. Mais depuis plusieurs mois, c'est assez récent, hein, Il montre des signes de sympathie envers l'extrême droite et pas seulement ce signe-là, pas seulement ce dîner. D'abord, il est un ami de Vincent Bolloré. Et les campagnes xénophobes ou racistes que mènent les médias de ce dernier, notamment sur CNews, n'ont pas installé la moindre distance entre les deux puissants hommes d'affaires. Pour preuve, le groupe de Bernard Arnault, LVMH, est celui qui soutient le plus ostensiblement par d'innombrables campagnes publicitaires les médias de Vincent Bolloré, tout particulièrement le Journal du Dimanche et le JD News. Les médias Bolloré, notamment le Journal du Dimanche, ont vu une grosse baisse des annonceurs publicitaires, voilà, fuyant ce média très éditorialisé. Et là, j'apprends, je ne savais pas, que le groupe LVMH, lui, manifestement, a continué ses pubs dans les médias Bolloré. Autre signe, dans un groupe familial qui marche à la baguette, Bernard Arnault n'a rien trouvé à redire à ce que son fils Antoine entretienne depuis de longs mois une relation d'amitié avec Jordan Bardella et que les gazettes en tiennent la chronique. Et puis au moment même où le milliardaire s'apprêtait à dîner avec Marine Le Pen, il a laissé Paris Match, que lui a cédé son ami Bolloré, mettre en scène en couverture la romance que Bardella entretient avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, jeune figure de la noblesse européenne. Les signes de sympathie de Bernard Arnault envers l'extrême droite ne se limitent pas à la France, écrit Mediapart. On peut relever l'enthousiasme qu'il témoigne fréquemment à Trump, dont il est proche depuis le début des années 80, ou encore l'homme du salut nazi, Elon Musk, salut Romain, dont il a à plusieurs reprises applaudi les projets de destruction des services publics américains. Donc ça, c'est pour Bernard Arnault. Parmi les convives du dîner avec Marine Le Pen, il y avait encore Cyril Bolloré, l'un des fils de Vincent Bolloré. Il y avait la directrice générale du groupe énergétique Engie, Catherine McGregor. Il y avait Sébastien Bazin, le PDG du groupe hôtelier Accor. Il y avait Patrick Pouyanné, le tout-puissant patron Total Energy, qui milite, nous dit Mediapart, de longue date pour que des liens soient établis entre le patronat et l'extrême droite. Il y avait le président de Renault, Jean-Dominique Sénard. Il y avait Thomas Buberle, le DG d'AXA, l'ancien directeur général d'AXA, Henri de Castries, qui, en 2022, avait déjà fait parler de lui à l'issue d'un autre repas sulfureux, cette fois avec Éric Zemmour. On y a vu aussi Paul Hermelin, le président du groupe d'administration de Capgemini. Et on nous dit que c'est lui qui a pris l'initiative d'ailleurs de ce dîner. Et Mediapart nous dit « Il ne faut pas se laisser abuser par les messages patronaux qui ont circulé après ces agapes, tentant à en minimiser l'importance. » L'opinion hier, c'est vrai, je l'ai lu, a titré « Les patrons consternés après leur rencontre avec Marine Le Pen ». Ce rendez-vous, estime Mediapart, est bel et bien l'indice que le patronat français se prépare à collaborer avec un pouvoir d'extrême droite. À la différence des 30 plus grands patrons allemands qui, en mai 2024, avaient pris fermement position contre le parti d'extrême droite AfD dans une tribune titrée « Debout pour nos valeurs ». Donc ça, c'est pour le dîner avec Marine Le Pen. Ensuite, Mediapart parle du déjeuner avec Bardella. Et il rappelle que pendant longtemps, les dirigeants du MEDEF ont, au nom du barrage républicain, appelé à voter contre Marine Le Pen. Puis contre Marine Le Pen. Ce fut la consigne d'Ernest Antoine Seillard en 2002 et celle de Laurence Parizeau au début des années 2010. Bon, manifestement, des choses ont changé depuis. Ce réflexe démocratique s'est érodé. Pour finir, lors des législatives de 2024, le patronat a refusé d'appeler au barrage républicain et même fait comprendre que le vrai danger venait pas de, du RN, mais de la gauche. Après, ce sont des éléments qu'on a déjà vus dans les deux autres dossiers, donc je ne vous les lis pas, hein, sur les rencontres de ces derniers jours. Voilà, et Mediapart d'estimer que c'est désormais une porosité généralisée qui s'est instauré entre les milieux d'affaires et l'extrême droite. Le créateur des Smartbox, Pierre-Édouard Sterrin, connu pour avoir mis au point le plan Périclès pour aider à la victoire de l'extrême droite, cherche-t-il les financements complémentaires pour conduire une opération? Il les trouve désormais sans difficulté auprès de Razéo, le plus grand fonds d'investissement français, créé à l'origine par Lazare, la banque d'affaires. Le président du MEDEF veut-il fédérer toutes les organisations patronales dans une initiative commune? Il n'éprouve pas le moindre scrupule à y associer le mouvement éthique, présidé par Sophie de Menton, qui roule ouvertement depuis plusieurs années pour Marine Le Pen. La dissolution calamiteuse décidée par Macron au printemps 2024 a en fait conduit à un divorce radical entre le MEDEF entre quoi entre lui et les plus grands patrons français. Entre Macron, pardon, et les plus grands patrons français. Elle est à l'origine de le rapprochement progressif avec un camp qui a eu l'habileté, donc on parle du RN, de faire mine de se soumettre à la doxa patronale, résumé par deux commandements, être pro-Europe et pro-business. Ce n'est pas la seule explication de ce spectacle, et inquiétant moment des plaques tectoniques, l'émergence d'un nouveau capitalisme libertarien dans le Brésil de Bolsonaro, qui a été condamné d'ailleurs au Brésil pour coup d'État, l'Argentine de Milei et surtout les États-Unis de Trump exercent une véritable fascination sur les plus grands patrons français. Beaucoup, et on arrive à la conclusion de cet article, se sont pris à penser que pour surmonter la crise du néolibéralisme, ouverte lors de la crise financière des années 2008-2010 et ouvrir de nouvelles perspectives d'accumulation du capital et des profits, il fallait avancer vers une dérégulation toujours plus radicale. Et même se diriger vers un capitalisme sans la démocratie. En clair, ils, certains patrons français, se sont acclimatés à l'idée d'un pouvoir autoritaire quand il n'œuvre pas à sa victoire. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut jamais oublier la leçon de l'Italie de 1922, de l'Allemagne de 1933 ou du Chili de 1973. Sous le fascisme, il y a toujours le capital. Dans un livre précurseur paru en 1936, Fascisme et grand capital, l'écrivain révolutionnaire Daniel Guérin en avait fait cette réflexion. Il faisait valoir que si la haute bourgeoisie ou certains de ses cercles font le choix du fascisme, ce n'est pas pour mater une poussée révolutionnaire, c'est d'abord pour sauvegarder et augmenter leurs profits. En d'autres termes, le choix du fascisme résulte d'un problème interne au capitalisme. Le fascisme, de quelque nom qu'on l'appelle, risque de demeurer l'arme de réserve du capitalisme dépérissant, écrivait-il, on est en 1936, dit autrement pour être efficace, le combat contre l'extrême droite doit se mener de pair avec celui contre le nouveau capitalisme qui vient, c'est-à-dire dans Mediapart. Article signé Laurent Mauduit, pardon, je ne vais pas citer. Je vous lis et on enchaîne. Allez, je retourne en bas du chat, c'est parti. Mediapart, tout à fait. Alors, Maximilien écrit dans le chat, par exemple. Sincèrement, je suis anti-RN, mais là, il faut comprendre que oui, quand tu gères une entreprise, c'est trop risqué d'être frontalement contre le RN. Quand tu sais qu'ils ont un potentiel très élevé de passé. Ce sont des patrons, pas des militants. Ils ont la responsabilité de milliers d'emplois. Alors ça, c'est la pose de la question de la responsabilité sociale des entreprises, effectivement. Est-ce qu'une entreprise n'est là que pour faire des bénéfices et accessoirement créer de l'emploi, ou est-ce qu'elle a un rôle social ? Ça, c'est ton regard sur la conception de l'entreprise qui est en jeu, en fait. Je vous lis. Astralis. Le plus gros problème pour moi reste le manque de renouveau chez les partis traditionnels hors extrême. Les gens se retrouvent face à deux pôles opposés. Par exemple, la politique française est tellement bloquée que je suis quasi sûr que s'il pouvait se représenter, Macron ferait toujours un bon score. Je suis assez d'accord avec le début de ton analyse. Je suis moins sûr de la chute. Sur la capacité de Macron à faire un bon score si jamais il pouvait se présenter. Il a vraiment une image qui est extrêmement abîmée. Il y a Heisenberg, Barbecue Ricard qui nous dit le capitalisme a considérablement amélioré le niveau de vie des populations, contrairement au communisme dont la performance est désastreuse. Tu remarqueras que tu es le seul à parler de communisme dans ce chat et que le mot n'est jamais prononcé dans les articles qu'on vient de lire. Ça s'appelle un hors-sujet, mais merci de ta participation à ce stream. C'est le fameux. Mais arrêtons de critiquer l'extrême droite et les crimes du communisme alors. Tu sais, il y a un moment, c'est l'espèce de joker, c'est intéressant. Mais c'est pas grave si personne n'a parlé de communisme jusqu'ici, mais à un moment, c'est le truc que tu sais pas d'où ça vient, c'est une espèce de réflexe. C'est assez amusant. Et les crimes du communisme alors, on les dénonce? Les gars, il va falloir trouver autre chose, hein, parce que c'est un peu juste quand même. Plus personne ne marche avec cet argument claqué au sol. Hein. Il va falloir bosser un peu. Sur Twitter, tu peux en lire encore un peu, mais même eux, ils y croient plus vraiment très fort, je pense. Je vous lis. Façon, je pense que d'ici 2027, d'ici la présidentielle, dans un an, hein, quasiment tout pile, on a l'occasion de reparler de tout ça. Je ne dors pas, hein, je vous lis. Hein. Allez, un dernier message et on enchaîne avec une de mes obsessions, non pas la baisse de la démographie, mais le débat sur la baisse du taux de natalité. Voilà, on va réarmer dans un instant. Allez, tous à poil. Julia Montfort, ça me dit quelque chose, ça. Il y a Yann qui nous dit, et je me permets de détourner un peu la suggestion de jeu pour suggérer une journaliste. Sur qui je suis tombé sur YouTube, Julia Montfort, elle a une série nommée Carnet de solidarité qui est bouleversant, je te conseillerais forcément. Merci beaucoup Yael, c'est très intéressant. Julia Montfort, je connais ce nom. Excusez-moi, je fais un petit détour. Elle me dit quelque chose. Julia Roberts, non, c'est pas ça. Julia Montfort. Comme Nelson Montfort? Ah, c'est intéressant. Ok. Merci en tout cas, merci beaucoup pour l'info. Safi, non, je crois pas. Non, parce que je crois l'avoir. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Alors, allez, réarmons bande de jeunes hommes. Merci aux amis de YouTube d'avoir suivi notre petit échange là-dessus. Hein, tous les jours, dans la revue de presse de Twitch, je prends une actu qu'on met en avant sur YouTube. C'est celle-ci. N'hésitez pas, selon la formule consacrée, à mettre des pouces. C'est comme ça qu'on dit? Des pouces bleus, c'est ça? Des likes, des que sais-je. Voilà. Et à follow cette chaîne, à suivre cette chaîne, à vous abonner, qui vient de passer les 200 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme. On est en train de devenir des YouTubeurs ici. Merci les amis, bonne journée. Ensuite, donc. Démographie, la révolution de la baisse de la natalité. Voilà. Hop, ça, c'est un vrai sujet aussi. Et qui va impacter toutes nos politiques économiques et sociales dans les prochaines années, les prochaines décennies. Donc, essentiel. Boum. Alors, des articles sur la démographie, sur la baisse de la natalité, les conséquences sur notre régime de protection sociale, sur notre régime social, notre régime économique, ça, on en a parlé plein de fois. Mais j'aime bien vous lire un article de temps en temps qui éclaire un peu le sujet. Donc faites pas attention au titre qui est complètement claqué au sol, c'est un extrait de l'interview, on s'en fout. La chute de la démographie est telle que dans certains pays, nous se mettent à garder les animaux. Bon, le pire titre ever. Non, c'est la réflexion de ce monsieur qui est intéressante, qui s'appelle Thibaut Prébet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Démographie, la bombe tranquille ». Fait penser au titre de téléphone il y a très longtemps, La bombe humaine. C'est quoi ce titre? C'est de la merde, Cyril, fais pas attention. Dans Démographie, la bombe humaine, l'économiste, donc c'est un économiste qui nous parle, décrit les conséquences concrètes de l'effondrement de la natalité, ces sociétés vieillissantes où les crèches cèdent la place aux EHPAD et où les retraités, devenus majoritaires, décident de l'avenir du pays à la place des actifs. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Lisons. Interview de Renan Planchon, qui pose la question à ce monsieur. Mais à quoi ressemble concrètement un monde sans enfants? Enfin, avec moins d'enfants, il faut doser. En quoi cela change-t-il en profondeur les équilibres économiques et structures même de la société? La démographie transforme en profondeur tous les aspects de la société. Attention ici, on ne vous dit pas de faire des enfants. Hein. On n'est pas sur un... C'est pas un stream pro-natalité ici. C'est pas parce que le streamer ici fait des enfants à tire l'arigot et est devenu récemment papa d'une famille nombreuse, j'ai ma carte SNCF et tout... Hein, on n'a pas ce discours ici. On fait ce qu'on veut. Hein. Vous voulez des enfants, pas d'enfants. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est un choix éminemment personnel qui est le fruit de plein de choses et de parcours personnels liés à sa propre histoire familiale, sentimentale, amoureuse, ses craintes par rapport à l'avenir. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, moi, j'ai choisi d'en faire. Voilà, c'est pas le sujet. En revanche, on est en droit de se pencher sur les conséquences du fait qu'on fait moins d'enfants. Ça, c'est important. T'as combien d'enfants? Ouf. 3, j'en ai 3. 9, 6 et 7 semaines. Petit chouchou. Alors, donc, la démographie, dit Thibaut Prébet, transforme en profondeur tous les aspects de la société. Le premier effet visible est la création de sociétés vieillissantes. Bon, tout le monde serait d'accord, marqué par ce qu'on peut appeler une forme de gérontophilie. Avec elle, paraît une difficulté majeure, particulièrement évidente en Corée du Sud, par exemple, ou au Japon. Comment préserver la démocratie lorsque ce ne sont plus les actifs qui décident majoritairement par leur vote? Hein? Cette question, elle est essentielle quand même. Que devient la démocratie quand ce ne sont plus les actifs qui décident majoritairement du vote? Hein? Que ce sont les retraités. Quels choix vont faire politiquement les retraités de demain qui vont devenir majoritaires bientôt au niveau du vote? Ah! Est-ce qu'ils vont préserver, par exemple, la part des retraites dans le PIB, voilà, voire l'augmenter, voilà, ou soutenir les jeunes actifs?
Je pose la question, on ne peut pas poser la question.
Alors, au Japon, par exemple, qui est intéressant parce qu'il nous montre ce à quoi pourrait ressembler la France dans quelques décennies, si le taux de natalité reste faible, hein, qui est un pays qui est en train de vieillir à une vitesse incroyable, les seniors votent massivement, tandis que les jeunes participent à moins de 30% des scrutins, conscients que ce sont les plus âgés qui tranchent. Non seulement il y a de moins en moins d'actifs et de jeunes dans la population, mais en plus, ils votent moins que les personnes âgées, mais ça c'est un classique. En France, par exemple, le taux de participation aux élections des plus âgés est beaucoup plus important depuis très longtemps des jeunes. Par ailleurs, il s'agit de sociétés où les enfants se font de plus en plus rares. Voilà. Puis après, ça nous fait des petits trucs genre SNCF en disant « Hop, 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 ce wagon-là, pas d'enfants. Ça va, les enfants, hein. Ça va. On y réinvente progressivement tous les métiers en Corée du Sud. Les nounous se mettent à garder les animaux. » Donc ça, on s'en fout en vrai, mais c'est juste un exemple. Au Japon, les crèches cèdent la place aux EHPAD. Oui, bon, ça, c'est pas une surprise. Hein. Pourtant, ces pays n'ont pas encore connu d'effondrement économique brutal. Ils ont pu repousser l'échéance grâce à une dette publique très élevée, en puisant dans la richesse accumulée dans d'importants actifs publics. Mais, estime l'économiste, peut-être qu'il se trompe, hein, ces nations sont en train de consumer leur héritage, même si elles disposent encore d'un petit peu de temps. Elles n'en restent pas moins dans une situation économique préoccupante, voire cataclysmique, déflation persistante, absence de croissance, tout ce que nous devons éviter, estime cet économiste. Est-ce que l'inflation des diplômes a contribué à ce déclin? Pourquoi? Hein? À la fois parce qu'elle alourdit le coût des études pour les parents et parce qu'elle retarde l'entrée des jeunes sur le marché du travail. On fait moins d'enfants parce qu'on étudie? Alors, c'est un peu con comme ça, c'est pas complètement faux. Puisqu'en fait, l'arrivée sur le marché du travail est beaucoup plus tardive qu'à une époque. Et du coup, l'âge du premier enfant, pour cette raison et pour d'autres raisons, bien sûr, il a reculé. Bien sûr. Ça c'est une stat. Ouais. Mais c'est qu'une des raisons, bien sûr. Deux phénomènes seulement expliquent l'essentiel de la baisse démographique partout dans le monde, dit l'économiste. Tout le reste n'est que détail, qui permet d'expliquer pourquoi tel pays se situe à 1,1 enfant par femme plutôt que 0,9, mais qui ne touche pas au cœur du sujet. Le premier phénomène qui explique la baisse démographique dans le monde, c'est la mortalité, la baisse de la mortalité. Ça, c'est vachement intéressant. On oublie souvent que ça, franchement, c'est pas un argument que j'ai souvent vu. On oublie souvent que 2,1 enfants par femme, cela correspond aujourd'hui au seuil de remplacement de la population. Mais au 17e, par exemple, c'était pas 2,1, c'était 7 enfants. Il fallait faire 7 enfants pour en garder 2, en raison de la mortalité à l'époque, notamment infantile. Entre le 14e et le 18e siècle, la fécondité oscillait entre 6 à 8 enfants par femme. Tandis que la population française augmentait très peu. On est passé de 17 à 20 millions d'habitants. On faisait beaucoup d'enfants, mais ça augmentait pas beaucoup la population parce que la mortalité à l'époque était gigantesque. La première raison de la baisse de la fécondité est l'ajustement à ce nouveau seuil de remplacement rendu possible par la chute spectaculaire de la mortalité infantile. Voilà. On fait moins d'enfants parce qu'on meurt moins. Sauf que il y a un delta, il y a un délai. Voilà. Il y a, en jeu vidéo, on dirait quoi ? Il y a du ping. Mais il y a un gros ping de 25 à 30 ans entre une société qui... Ouais, c'est pas un cooldown, c'est plus un ping. Un gros ping, un très gros ping. Non, c'est pas un cooldown, c'est plus un gros ping. Entre le moment où on fait beaucoup d'enfants parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui meurent, et le fait où on commence à intégrer que bon, bah, on meurt moins et donc on en fait moins. Il y a du lag, voilà. Mais ça, on va le voir dans un instant. Le second facteur, c'est le choix. Ça va vous parler aussi. Au XVe siècle, 95% de la population vivait de l'agriculture et avait besoin d'enfants à la fois pour travailler la terre et pour s'occuper d'elle dans la vieillesse. Et il fallait des bras dans les champs et puis il fallait aussi des enfants pour s'occuper de soi. Il n'y avait pas la retraite. D'accord. Donc on faisait des enfants, alors sûrement par amour, hein. Sûrement qu'on aimait bien aussi, voilà. Hein. Le plaisir. Puis il n'y avait pas de moyens de contraception par ailleurs. Mais on faisait aussi des enfants parce qu'on en avait besoin. Au XVe siècle, voilà, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, nous avons ce choix. Nous avons ce choix aujourd'hui. Hein. Les études retardent l'entrée dans la vie active. Donc oui, c'est un truc. Mais si nous n'avions pas le choix, nous ferions malgré tout des enfants. C'est précisément parce que nous avons le choix que nous faisons moins d'enfants. Une fois ce choix acquis, toutes les excuses deviennent possibles. Trouver le partenaire idéal, poursuivre des études épanouissantes, s'interroger sur la capacité de la planète à supporter une population supplémentaire. Mais le vrai truc, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a le choix. Et quand tu as le choix, t'en fais moins, forcément. Ouais. Donc, à la fois, l'adéquation entre un taux de natalité et un taux de mortalité et le choix. Continuons, c'est pas terminé. Vous décrivez la chute de la démographie comme une bombe démocratique, c'est-à-dire le vieillissement des populations n'empêche pas les chocs économiques violents. Il produit plutôt un délitement lent et continu. Dans les sociétés qui meurent, il n'y a pas de crise brutale, seulement un affaissement progressif. La croissance devient négative année après année, comme en Allemagne, tandis que l'inflation baisse et les individus s'appauvrissent lentement. On se retrouve dans un monde qui meurt sans faire de bruit. En Chine, qui entre dans cette dynamique, on observe déjà un exode des forces vives. Les jeunes partent parce qu'on leur vend un avenir que le régime ne pourra pas tenir, notamment sur le plan démocratique et économique. Chaque année, environ 200 000 personnes quittent le pays. Bon, après, 200 000 personnes en Chine, c'est pas beaucoup, hein, si je puis me permettre. Le Japon, protégé par son insularité, constitue un mauvais exemple sur ce point. La vraie tendance à venir est celle d'un pays et de pays qui se vident de leurs habitants les plus dynamiques, devenant peu à peu des sociétés fantômes. Alors, moi, le passage qui arrive, c'est le moment où je trouve le plus intéressant. Il faut bien comprendre que nous avons construit une société sur l'idée que la transition démographique que nous avons traversée constitue un état stable. C'est-à-dire le moment où, en gros, le taux de mortalité a beaucoup baissé et le moment où on s'est mis à faire moins d'enfants, Hein? Cette transition démographique, qui est une transition, on a construit notre société d'aujourd'hui, estime l'économiste, sur le fait que cette transition allait durer. On s'est dit c'est la norme, alors que c'était exceptionnel. C'est le cœur de la pensée de ce monsieur, alors qu'il ne s'agissait que d'une phase transitoire. Dès 1939, Adolphe Landry avait démontré que l'intervalle entre la baisse de la mortalité et celle de natalité, le ping, la latence dont je vous parlais, était temporaire. En 1945, Frank Notestein expliquait le baby-boom par cet écart. Il a fallu attendre les années 90 avec des démographes tels que Jean-Claude Chenet ou Ron Lesteguet pour établir que cette transition, le ping, durait typiquement entre 25 et 35 ans. Vous allez me dire, c'est un gros ping, c'est un très gros ping. Voilà. Et donc, on a une transition entre la baisse du taux de mortalité et la baisse du taux de natalité de 25 à 30 ans. Sauf que, selon cet économiste, on a construit notre société actuelle, notre système économique, notre système social, sur ce ping. Et voilà. Et là, il dit, ben, il y a un problème. Cette période a généré des facilités inédites, un financement aisé des retraites. Eh oui. Donc, au début, il y avait très, très peu de gens qui partaient. Alors, quand on a mis le système des retraites en place en France, ben, au début, il y avait très peu de retraités. Il y avait plein d'actifs pour financer tout ça. Hein, c'est puisqu'on a un régime de solidarité par répartition, nous, en France. Voilà. Et puis, progressivement, il y a eu plus en plus de gens à la retraite. Et puis, bon, ben, du coup, c'était plus cher à financer, bien sûr. Et puis, à un moment, le nombre d'actifs, c'est là où on en est en France, par rapport au nombre de retraités, a commencé à baisser. Là, ça devient compliqué. Donc, mais pendant un moment, ça a été super facile, pendant le ping, là. Le problème, c'est qu'il s'agissait d'un monde très particulier, mais transitoire. Nous sommes désormais entrés dans un nouvel état stable. Pourtant, nous continuons à raisonner comme si nous étions encore dans cette phase intermédiaire, avec des retraites par répartition financées selon les mêmes mécanismes qu'auparavant. Alors, JST nous dit la productivité a explosé depuis quand même. Oui, c'est pas faux. Mais si je puis me permettre, infâme communiste que je suis, parce que je suis bien des choses et notamment ça, la productivité a explosé, mais les salaires, non. Ils n'ont pas explosé. Alors, je ne sais pas où c'est passé, mais ce n'est pas passé que dans les salaires. Or, les cotisations pour financer le système de retraite, c'est sur les salaires. Et oui. Donc, on a un petit souci de financement quand même. Nous sommes désormais entrés dans un nouvel état stable. Pourtant, nous continuons à raisonner comme si nous étions encore dans la phase intermédiaire avec des retraites par répartition financées selon les mêmes mécanismes qu'auparavant. Bah oui, ça ne peut pas marcher. La période 1950-2000 correspondait à la digestion de la baisse spectaculaire de la mortalité, le ping, rendue possible par les vaccins et les antibiotiques. La baisse de la natalité nous frappe désormais de plein fouet. Le monsieur, il dit, c'est normal qu'on fasse moins d'enfants, en fait, par rapport au fait qu'on a le choix maintenant, par rapport aussi que la mortalité n'est plus la même. Le problème, c'est que notre système social et économique, on l'a pensé à un autre moment, et il faudrait le revoir. Alors, question du Figaro. Vous plaidez pour un changement complet de logiciel économique. Comment cela se traduit-il concrètement? Alors, je ne sais pas ce qu'il va proposer, ce monsieur. Sur le constat, on peut être d'accord. Après, c'est au niveau des propositions qu'on peut... Là, c'est le débat citoyen et politique qui entre en jeu. La première étape consiste à cesser de mentir aux citoyens en leur faisant croire qu'on peut continuer comme avant. Cela passe par la fin des déficits structurels et l'abandon du logiciel keynésien qui stimule artificiellement l'économie. Que notre pays, comme d'autres, hein, a un problème d'endettement, on est obligé de le reconnaître. La charge de la dette devient folle dans un pays comme la France. Je parle des intérêts. Nous vivions dans un monde où le potentiel de croissance atteignait 2%. Nous sommes désormais autour de 0,5%. Certains économistes vont me dire « c'est pas vrai, les gains de productivité avec l'IA, tout ça, on va retrouver de la croissance bientôt. » On va voir. Plutôt que de creuser la dette pour rien, il faut accepter ce nouveau potentiel et limiter les déficits à 2 ou 3% maximum. Il faut également repenser la formation. La réindustrialisation est une illusion. Ces métiers sont peu attractifs, la main-d'œuvre manque et nous avons structurellement moins besoin d'emplois industriels avec la digitalisation. Voilà, numérisation, enfin, digital, on s'en fout, mais bon. À l'inverse, nous allons assister à une dénumérisation. Voilà, je préfère. Le travail numérique sera de plus en plus délocalisé, notamment vers l'Afrique, tandis que nous recentrerons sur les métiers de services non délocalisables, hein, le plombier, électricien, aide aux personnes âgées, professeur, métiers aujourd'hui sous-valorisés. Alors moi, que ces métiers demain soient davantage valorisés, parce que justement ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables, moi ça m'irait bien. La formation doit devenir beaucoup plus dirigée par l'État en phase avec les besoins réels du marché. Former des jeunes à des métiers sans débouchés, comme on le fait encore trop souvent, relève presque du scandale dans un contexte de pénurie et de main-d'œuvre. Voilà. Alors ça, tout ça, ça peut se débattre, puisque ce sont des propositions économiques. En revanche, sur le constat, difficile de dire que le monsieur se trompe beaucoup. Je vous lis. Je ne suis pas d'accord, me dit Yoni Blum, il y a plein de jobs intéressants dans l'industrie, il faut réindustrialiser. Lui estime qu'avec la révolution de l'IA, c'est un mirage et que l'industrie ne va pas créer tant d'emplois que ça. Je me demande quel est l'impact, me dit Sugar, de l'infertilité croissante sur cette baisse de la natalité. Alors, d'après les spécialistes sur le sujet, l'infertilité, c'est un vrai sujet, hein, a un impact, mais qui a un impact limité par rapport aux autres raisons qu'on vient d'évoquer. Brandy Hot Dog. Merci, Corgan. Merci. Merci à tous les deux. Le livre, ça s'appelle Démographie. Pourquoi tout va changer, comment s'y préparer. La bombe tranquille. Beaucoup de travail intéressant dans l'industrialisation. Ouais, la plupart restent tout de même bien inintéressants et mal payés. Je sais de quoi je parle, c'est mon taf, me dit Bourat. Je vous lis. Merci beaucoup, Dizax, pour ton message qui fait bien plaisir. Après, puisqu'on parle de transition et de ping, là on est sur, je reviens un peu en arrière, on est sur une phase de, sur une époque où on a un sujet compliqué. En gros, on a massivement des gens qui arrivent à la retraite dans un pays comme la France, et moins d'actifs et de moins en moins de jeunes. Donc on a un ping problématique. Après, pardon, les personnes âgées, hélas, vont finir par mourir, et ce gros delta entre beaucoup de retraités et peu d'actifs, il va se réduire. Ça, le problème, c'est que ça va prendre un certain temps. Il faut gérer ce gros ping de 30 ans, pour faire simple. Donc, on peut se dire que dans 30 ans, c'est long dans 30 ans. Le gros problème d'aujourd'hui, voilà, il faut tanker le delta. On pourrait dire que ce gros problème sera réglé. Sauf, et c'est pas impossible, si on continue à faire de moins en moins d'enfants. Ha ha! Et c'est le cas. Et c'est le cas. C'est-à-dire ce qu'on appelle le mot est affreux, mais le taux de fécondité, le nombre d'enfants moyens par femme en France, il continue à baisser. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est valable si on continue à faire autant d'enfants. Or, en France, on était à 2,1 pendant un moment, et puis maintenant, on est à quoi, 1,7 ou peut-être en dessous. Voilà. Et ça continue à baisser. Pour plein de raisons, d'ailleurs. Et les gens font ce qu'ils veulent, encore une fois. On fait des enfants ou pas des enfants. C'est pas le sujet. Mais, voilà. On pourrait avoir en gros 30 ans de ping compliqués à gérer, qu'on peut financer, alors ça, comme on veut, hein, ça, c'est des décisions politiques, par le déficit, par des retraites moins généreuses. On est à 1,56, ah ben ça baisse, on est à 1,56. Donc, par le déficit, par des retraites moins généreuses, par davantage de cotisations ou de taxes, là, sur qui là, tout le monde, classe moyenne, les plus riches, les ultra riches. Voilà, c'est le débat politique. Mais en tout cas, on a un souci, on a un sujet. Vous remarquez que moi, je ne mets pas la natalité là-dedans. Parce que dire que notre problème, c'est la natalité et c'est qu'on fait pas assez d'enfants, c'est dire que c'est le rôle de l'État de peser, d'influer sur sa population pour qu'il fasse des enfants. Plus d'enfants, moins d'enfants. C'est ce qu'a fait la Chine, par exemple, hein, qui, pendant des décennies, a mis en place une politique dite de l'enfant unique pour interdire, salut Hugo, tu vas bien, interdire au couple d'avoir plus d'un enfant, hein, et maintenant fait exactement l'inverse. Essaye de peser sur la population pour que les Chinois fassent plus d'enfants. Et ils ne veulent pas, les Chinois. Et ils ont raison. Faire un enfant, c'est une décision personnelle. À aucun moment, l'État ne doit quelque part se mêler de ça. Donc moi, dans l'équation, je ne mets pas les enfants, c'est vous qui décidez. C'est nous, c'est vous, on fait ce qu'on veut. On ne juge pas les gens qui ont les enfants, on ne juge pas les gens qui ne veulent pas d'enfants. C'est un truc trop personnel. Donc moi, je ne mets pas la natalité là-dedans. En revanche, il y a tout ce que je viens d'évoquer. Comment on tanque ce ping de 30 ans, quoi ? On peut encourager les gens à avoir des enfants. Qu'on se mêle de... C'est pas l'État de le faire. Alors, si on veut créer des conditions plus sympas pour les jeunes parents en termes de congés, paternité, maternité, de crèche, de transport, d'espoir dans l'avenir, pourquoi pas, mais de toute façon ça c'est pas qu'une question d'inciter les gens à faire les enfants, c'est globalement c'est de créer une société, un pays cool dans lequel il est bon de vivre, ça profitera à tout le monde, hein. Ça oui je veux bien, mais c'est pas à l'État de dire vous devez faire ton enfant. Merci Paf la Pastèque. Vous connaissez l'histoire de Paf la Pastèque? C'est une pastèque qui décide de traverser l'autoroute. Désolé, je suis très fatigué. Merci Fan Ferrari, merci Brandy Hot Dog. Paf le chien, oui, c'est une variante. Oui, après, il y a la variable de l'immigration aussi, bien sûr. Il y a aussi la variable de l'immigration. Moi, j'ai la faiblesse de croire qu'une société bien dans ses baskets, une société dans laquelle il est bon de vivre, parce que pour plein de raisons, bah c'est peut-être une société dans laquelle on va avoir envie de faire des enfants. Mais c'est pas tant de débat, c'est comment on s'adapte à la situation d'aujourd'hui, quoi. Bien dans tes baskets, tu les enlèves pas pour réarmer ? Il n'y a pas de règle. Y a pas de règle. C'est pareil, c'est comme en matière familiale. En matière d'amour et de sexualité, il n'y a pas de règle tant que tout le monde est consentant. Hein, basket, pas basket, on s'en fout. Bah non, ça me dit Vici Sparda, il y a bien des aides financières et de soutien aux parents de l'État. Tout à fait. Sauf que la plupart des études des économistes sur le sujet montrent que ça ne joue qu'à la marge. Alors oui, il y a un président en France qui s'appelle le président Hollande, qui, par exemple, a décidé que les allocations familiales allaient être désormais en fonction des revenus. Hein. Donc avant, c'était les allocations familiales étaient universelles. Quels que soient tes revenus, tu avais le même niveau d'alloc. Que tu gagnes bien ta vie ou que ce soit plus difficile. Donc il y a des gens, par exemple, qui disent « Ah, mais c'est à cause de François Hollande qu'on fait moins d'enfants. » En fait, la plupart des économistes disent que ça joue qu'à la marge et tu fais pas des enfants pour des raisons financières. Tu fais pas des enfants ou tu ne fais pas d'enfants, enfin bref, pour des raisons financières. Ça joue, mais à la marge. Les vrais ressorts, c'est ceux qu'on beaucoup plus puissants, c'est ceux qu'on vient d'évoquer. Hein? Le fait que désormais on a le choix, le fait que désormais on arrive plus tard sur le marché du travail, le fait qu'il y a une baisse du taux de mortalité, qu'on a moins besoin de faire des enfants, moins besoin matériel de faire des enfants, même de survie, quoi. Donc ça joue, mais à la marge. Je ne connais pas beaucoup et vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui ont fait des enfants pour les allocs. Donc ça joue, hein, mais à la marge. Ça joue, j'ai pas dit que ça jouait pas, mais ça joue à la marge. Le vrai truc, c'est le logement, par contre. Le logement, ça, c'est vrai. L'accès au logement est tellement difficile en France que ça joue. Il y a plein. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a plein de couples. Il y a plein de couples qui n'ont pas d'enfants ou qui ont le projet d'avoir un enfant supplémentaire, passer de 1 à 2 ou de 2 à 3, par exemple, ou de 3 à 4, et qui décident de ne pas faire parce que l'accès au logement locatif comme achat est devenu tellement compliqué dans un pays comme la France que c'est pas possible. Ça joue énormément. Mais là, on est moins sur un sujet alloc qu'un sujet logement qui est un scandale en France. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien une influence de l'État. C'est pas sûr. Là, tu es en train de nous dire que la question du logement, elle est le produit d'une politique publique et étatique et non du comportement des acteurs individuels. Voilà. Moi, j'aimerais bien croire qu'une politique publique en France peut changer la donne sur le logement. J'aimerais bien, hein. Mais t'as l'impression que rien n'imprime, quoi. Par contre, ça, c'est un vrai sujet, ouais. Attention, hein, je ne dis pas que l'État n'a pas, par diverses mesures qu'il pourrait prendre sur le logement ou les allocs, qu'il ne peut pas influer à la marge sur le taux de fécondité en France. Hein, je ne dis pas ça. Hein. Je dis juste que c'est à la marge. C'est tout. Et que la vraie raison de la baisse du taux de natalité dans un pays comme la France et dans la plupart des pays du monde est liée à d'autres raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. Alors. Si on arrivait enfin à trouver une politique du logement en France qui permette à tout le monde de se loger dans des conditions décentes, ce qui n'a rien à voir avec la question de la natalité, hein. L'objectif, c'est ça, hein, c'est que dans un pays comme la France, les gens puissent se loger décemment. Voilà. Ça, c'est un scandale. Là, c'est un sujet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas ça qui aura forcément une influence majeure, majeure sur la natalité. Ça joue, mais pas de façon majeure. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur cette question qui est un scandale. C'est autre chose. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs qu'on fasse moins d'enfants. C'est juste, c'est l'état de notre société, de notre rapport au monde aujourd'hui. La question, c'est comment on le gère, quoi. On enchaîne? De toute façon, on a l'occasion d'en parler. En attendant, vous faites ce que vous voulez. Vous réarmez, vous réarmez pas. C'est vous qui voyez. Ok. Il me reste un petit peu de temps, ça. Ouais, j'ai un team, c'est à 12h30. On enchaîne avec les pirates, les hackers, les gens qui veulent vous voler votre pognon et vos données, tant qu'à faire. Let's go. C'est le Parisien qui nous en parle, notamment ce matin. Regardez ça. L'ANTS. L'ANTS, bon, l'Agence nationale des titres sécurisés, victime d'une attaque. Bon, on s'en fout. Sauf quand on comprend que l'ANTS, c'est les cartes d'identité. C'est les passeports. Ouais. Les mecs sont rentrés dans le système. Aïe. Article dans le Parisien, pleine page. Aucun système informatique n'est inviolable. L'Agence nationale qui gère les demandes de pièces d'identité a été victime d'une fuite de données. Nom, prénom, adresse électronique, date de naissance. Sont concernés. Le truc s'appelle Agence nationale des titres sécurisés. Bon, en fait, pas trop sécurisé. Nouvelle attaque d'ampleur, cyberattaque. Après l'éducation nationale, les détenteurs d'armes à feu ou encore le réseau Cyberalliance Santé, c'est au tour de l'Agence nationale des titres sécurisés d'être touchée. Ouais. Certains proposent dans le chat de renommer l'ANTS pour la nommer ANT, d'enlever peut-être le sécurisé. Alors, je vais vous dire exactement ce qui a été volé. L'organisme d'État chargé de délivrer les documents officiels d'identité, passeport électronique, biométrique, carte nationale d'identité, titre de séjour, permis de conduire, a annoncé hier, avoir été victime le 15 avril d'une fuite de données. Une attaque qui pourrait être massive, même si le chiffre de 19 millions de personnes touchées avancé par un forum cybercriminel n'a pas été confirmé. Que s'est-il passé ? La NTS a, selon différents forums de discussion entre spécialistes en sécurité informatique, subi une intrusion à partir d'une vulnérabilité dite IDOR, Insecure Direct Object Reference en anglais, très banal, selon un expert en cybersécurité, qui s'appelle Kevin Tellier. Voilà. Pour simplifier à l'extrême, elle permet, à partir d'un identifiant connu, de tromper le système en lui indiquant un numéro de classement qui ne correspond pas. En tapant 71 par exemple au lieu de 70, on obtient le descriptif et les données de la personne enregistrée au niveau 71, même si l'identifiant ne correspond pas. On recommence ensuite pour d'autres numéros, jusqu'à dresser une liste de données personnelles auxquelles on ne devrait normalement pas avoir accès. C'est une faille très simple, connue. Ouh, merci pour le raid. Merci Ignacio. Vous étiez sur quoi ? Et il est étonnant, dit ce monsieur, qu'elle puisse être détectée dans un organisme officiel tel que la NTS. Cela prouve qu'aucun système n'est inviolable. Les devs en carton, me dit Esveralda. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais. Quelles données ont été dérobées ? Haha ! Les comptes particuliers comme professionnels seraient concernés, indique le ministère de l'Intérieur, sous réserve des investigations en cours s'agissant des comptes particuliers. Qu'est-ce qui a été volé ? Les données à caractère personnel touchées seraient les données d'identification : nom, prénom, adresse électronique, date de naissance, identifiant de connexion, mais aussi le cas échéant d'autres données qui ne sont pas systématiquement présentes dans les comptes comme adresse postale, lieu de naissance, numéro de téléphone. Ok. Quels sont les risques ? Il est fort possible que d'éventuels fraudeurs imaginent des opérations de phishing par mail ou SMS très ciblées. Ils peuvent notamment se faire passer pour la NTS avec tous les codes couleurs d'une vraie page en montrant qu'ils possèdent déjà nom et adresse afin de prouver à leur interlocuteur, par exemple, qu'ils sont sur le bon site. Voilà. En leur demandant de confirmer un mot de passe et le voler ou remplir un nouveau document, en se connectant avec mot de passe et identifiant. Ouais. Toute personne ayant vu ses coordonnées volées devient une cible potentielle, mais selon l'expert, les hackers derrière l'attaque cibleront plus vraisemblablement des profils en particulier, personnalités politiques, célébrités ou des personnes connues pour avoir des comptes en crypto-monnaie. Francis Garnier nous dit « C'est pour ça que quand le fisc me demandera les impôts, je refuserai de répondre. Hein. » Attention au risque d'usurpation d'identité avec ces données, plus une copie de la carte d'identité ou du passeport. Avec ces données plus une copie de la carte d'identité du passeport, on peut tenter d'ouvrir des comptes bancaires, bye, ou des comptes administratifs comme à la CAF. Autre hypothèse, ces données pourraient servir de base pour la réalisation de faux papiers en complément de vol de souches de passeport vierge. Tout va bien. J'aime bien venir avec des bonnes nouvelles comme ça. Surveillez vos boîtes mail. L'organisme indique dans un communiqué que les usagers concernés feront l'objet d'une information personnelle. Donc si vous avez été victime d'un vol de données de la NTS, vous devriez recevoir un mail. De la NTS, un vrai. Normalement, waouh, quel enfer. Mais attention, vous pouvez également faire l'objet de tentatives d'escroquerie en ligne. Mail, SMS, appel téléphonique, soyez vigilants, ne cliquez pas sur des liens suspects. Il faudra redoubler de vigilance en mai, mois de nombreux ponts et week-ends prolongés, plus propices au risque de cyberattaque. Le moment où vous ne pouvez pas joindre votre banque, par exemple, ou les administrations. On a trois périodes de rush dans l'année, explique le spécialiste, mai, août et Noël, pourquoi les équipes informatiques des entreprises sont elles aussi en congé. Waouh ! Pourquoi tant de cyberattaques ? On ne compte plus le nombre de cyberattaques relayées dans les médias ces derniers mois, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Et on parle uniquement de celles qui ont beaucoup de résonance car liées à des ministères, des agences nationales, de grosses entreprises, souligne une avocate spécialiste en la matière. Et pourquoi notamment de plus en plus d'attaques dirigées vers le vol de données ? Parce qu'elles sont plus faciles et moins coûteuses à réaliser que le déploiement de rançongiciels. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on sera un jour victime de cyberattaques, mais plutôt quand et comment limiter les risques. Donc ça, c'est ce que disent la plupart des responsables en cybersécurité, que ce soit pour une entreprise ou un particulier. Les responsables sécurité des systèmes d'information d'Orisha, éditeur de logiciels, instillent sur la nécessité à sensibiliser les citoyens à ce risque. C'est ce que nous faisons ce matin. Dans 80% des attaques, c'est l'humain qui a cliqué là où il ne fallait pas. Sauf que les fameux liens corrompus sont de plus en plus propres, de plus en plus difficiles à reconnaître. Et ce qu'on a... Moi, je me suis intéressé au doc de Ludoc récemment sur la question, le YouTuber. Et ce que disent les spécialistes, c'est que avant, ces mails un peu zarbis, on les voyait bourrés de fautes d'orthographe, avec une mise en page pourrie et tout. Aujourd'hui, ce sont, avec notamment les outils d'IA, des copies conformes des sites officiels. Voilà. Des trucs super propres. Il n'y a pas une faute d'orthographe. C'est super clean. Dans l'URL, tout semble OK. À une lettre près. À une lettre près. Voilà. Vous pouvez avoir des coups de fil de votre agence bancaire. C'est le numéro de l'agence qui s'affiche sur votre téléphone. C'est le numéro de l'agence qui s'affiche. Vous pensez que c'est votre agence qui s'appelle. Ils peuvent le faire. Il y a des outils pour ça. Voilà. Voilà. La règle, c'est que vous ne donnez jamais vos infos perso, mot de passe, etc., au téléphone, par exemple. Voilà. Et le conseil qu'il faut avoir en tête, c'est que toute personne qui vous demande d'agir dans l'urgence, toute personne qui vous demande d'agir dans l'urgence face à un problème, c'est très souvent une arnaque. Voilà. Si vous avez un doute, vous rappelez, vous, votre banque. Si vous recevez un mail, voilà, de votre banque ou un coup de téléphone de votre banque qui vous demande de faire des trucs, hein, vous dites, voilà, comme le dit Alain, dit un instant, je vous rappelle. Et vous appelez vous. Parce que l'arnaqueur, le cyberpirate, peut vous faire croire, peut vous appeler avec le numéro de la banque. En revanche, si vous appelez la banque, vous allez tomber sur votre banque. Voilà, vous allez en physique. Voilà. Voilà, soyez méfiants, quoi. Et ça peut arriver à des gens super bien informés. Tatin ! Regardez, article des Échos justement sur ce sujet. Là, on a parlé de la cyberattaque contre la NTS, mais regardez, les Échos nous proposent justement, boum, un coup de projecteur sur le sujet. Voilà, les nouvelles méthodes des hackers pour pirater votre compte en banque. Bim ! La France fait face à une recrudescence des cyberattaques. Les fraudeurs aidés par l'IA perfectionnent leurs attaques. Et si le prochain message de votre banque était un faux ? En ouvrant votre application bancaire, vous avez peut-être vu s'afficher un message appelant la vigilance. Donc là, ça revient sur la NTS, j'en parlais à l'instant. Je regarde les chiffres. Donc ça parle des attaques contre le CNRS, ça parle des attaques contre l'URSSAF, ça parle des attaques contre l'éducation nationale, beaucoup de fuites de données. Free aussi, 19 millions d'abonnés concernés, voilà, cyberattaque sur les données. Il y a un monsieur qui s'appelle Clément Domingo, le fameux streamer, qui dit que chaque personne en France a déjà vécu, sans le savoir, 4 fuites de données en moyenne. Voilà. Et donc il dit, Clément Domingo, il dit, mieux vaut apprendre à repérer ces arnaques. Car cette donnée, une fois fuitée, elle se conserve, elle se revend, et vous pouvez être ciblé n'importe quand. Certains ont appris à repérer les ficelles de ces arnaques, comme se montre par exemple ce témoignage au lendemain de la fuite de données Ficoba, un internaute qui se décrit comme naturellement méfiant pourtant, qui a failli pourtant se faire duper par une arnaque extrêmement sophistiquée, que voici. Tout commence par un appel téléphonique. Des individus se font passer pour le service des fraudes du Crédit Agricole, prétextant un virement suspect en Lituanie. Tentative classique pour extorquer de l'argent à un particulier. Sur ses gardes, il commence cependant à y croire. Les escrocs connaissent son numéro de compte, son état civil, sa caisse régionale. Ils appellent avec un numéro français, bien clean. Et surtout, ils parviennent à lui envoyer une vraie notification SecurityPass. C'est-à-dire, ils arrivent à lui envoyer une vraie notification de l'application d'authentification du Crédit Agricole. C'est très fort. L'internaute finit par comprendre lorsque les escrocs lui demandent de créer un compte très très public. Alors là, les gars, faut s'inquiéter. Pour annuler la demande de virement frauduleux du Crédit Agricole. Donc à un moment, il y a un truc qui doit vous alerter, quoi. Les dégâts sont déjà là puisqu'ils ont réussi à lui faire modifier son numéro d'accès pour son application bancaire. En panique, il est contraint d'appeler en urgence sa bancaire, la vraie, pour faire bloquer ses comptes et réinitialiser ses accès. En y repensant, ils avaient quand même mon numéro de compte, mon nom, ma date de naissance, ma caisse régionale. Ça, c'est des fuites de données. Une prise de contact convaincante et la manipulation suffisent ensuite. Ils sont très très forts, bien sûr. Ils savent faire. Alors après, il y a les banques et les plateformes financières essaient de mettre des outils en place pour nous protéger. XTB, par exemple, plateforme d'investissement en ligne, vient de déployer une fonctionnalité de verrouillage d'urgence. En cas de connexion suspecte ou d'accès non autorisé, les clients peuvent en un seul geste bloquer tous les retraits, les paiements par carte, les ventes d'actifs. Il y a un bouton d'urgence, quoi. Pour reprendre la main, il faut changer son mot de passe et procéder à une reconnaissance faciale. Ça rend un peu parano, dit Lucie Liberté. Oui, mais c'est bien. Ça peut vous protéger d'arnaques de milliers d'euros, quoi. Les grandes banques tentent de réagir. BNP Paribas a mis en place des messages de sensibilisation sur l'ensemble de ses canaux, sites web, applications, réseaux sociaux. Je crois que toutes les grandes banques font ça maintenant. Avec des messages d'alerte, vous savez, quand vous faites des virements là. Est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr ? Vous voulez bien faire un virement à machin, quoi. Sugar, tu peux épingler si tu veux, hein, si tu penses que le site est OK. Sur la fraude au prélèvement, la réglementation offre une protection. Il y a la loi aussi. Hein. Tout client dispose de 8 semaines à compter de la date du prélèvement pour le contester, sans qu'aucune preuve ne soit nécessaire. Le compte est recrédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la contestation. Ça, c'est la fraude au prélèvement. Ces arnaques ont d'ailleurs pris un tournant technologique avec l'IA, c'est ce que je vous disais. Une dirigeante de banque privée témoigne par exemple d'une tentative d'escroquerie particulièrement sournoise. Des fraudeurs avaient préalablement collecté des enregistrements audio de sa voix à elle, à travers des conférences et interviews, pour créer un clone vocal. Ce sosie sonore a ensuite envoyé un WhatsApp à un ancien employé de la banque, pour lui demander de valider en urgence une opération financière. Heureusement, l'employé n'était plus chez nous. Ça, ils n'avaient pas la bonne info. Incroyable. Si ça se trouve, c'est pas moi ce matin. C'est fou, hein ? Non, pas Savoie dans les Alpes, vous êtes cons, quoi. J'adore. C'est pour ça que nous imposons toujours une double vérification avec notre clientèle. Récemment, là, j'ai demandé à ma banque de faire un virement sur un truc, là. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, j'envoyais un mail, bonjour, est-ce que vous pouvez faire le virement et tout. Et après, bah maintenant, c'est survérifié, quoi. Après, j'ai eu un coup de fil de la banque pour vérifier que le mail venait bien de moi, parce que c'était normal. Et après, m'a demandé des validations, des trucs. Incroyable. C'est fou. Voilà. Un virement d'argent public, bien sûr. Hein. Évidemment. Évidemment. Tiens, bientôt, je vous en parlerai de ce truc-là. Il y a du nouveau qui arrive. Les données issues de fuites en ligne permettent de repérer facilement la voix de vos proches et employeurs et de développer ce type d'attaque. Je vous en parle bientôt. C'est incroyable quand même. Je n'en dis pas plus. C'est fou. La phase Ficoba là, qui a été hackée, grâce à des outils d'IA générative, permet d'automatiser la rédaction de milliers de courriers personnalisés, de faux emails bancaires ou de scripts téléphoniques adaptés à chaque profil. Ce qui demandait auparavant des heures de travail ne prend plus que quelques secondes sans rien coûter aux fraudeurs. Aux mains de ces derniers, un IBAN peut être dévastateur pour des particuliers, mais aussi pour les entreprises. Exemple. Un client s'apprête à régler une facture importante à l'un de ses fournisseurs habituels dans le bâtiment. Il valide sur virement de plusieurs dizaines de milliers d'euros et apprend 2 semaines plus tard que l'argent n'est jamais arrivé à son destinataire. Comment ils ont réussi à faire ça? Après avoir récupéré l'IBAN du fournisseur, les fraudeurs identifient les clients sur les réseaux sociaux avant de contacter la cible avec une fausse adresse email. Par exemple, sur ce modèle, oh la vache, nous changeons notre compte habituel, donc le suit l'IBAN réel, pour le suivant. Bah, tu as un fournisseur qui t'envoie un mail. Ouais. Et qui te dit, ben voilà, on change notre IBAN. Toi, tu changes l'IBAN, toi. Hein, tu passes pas forcément un coup de fil. Voilà. Et quand tu fais ton virement après, à ton fournisseur, eh ben, ça arrive sur un autre compte. De faux certificats, un RIB aux couleurs de l'entreprise, des lettres en tête falsifiées complètent le dispositif. Le client procède ensuite au virement sur un deuxième compte, un compte rebond, avant de disparaître à l'étranger, ce qui rend impossible de recouvrement des fonds. C'est incroyable. Ce cas démontre que la fraude ne repose pas sur une faille technique du système de virement, mais sur une manipulation psychologique installée sur l'utilisation de données réelles détournées. C'est ce mix. C'est arrivé à un ami, me dit Nuka, 15K. Bim. Mes parents se sont fait détourner des paiements de leur entreprise comme ça, me dit Connie Kozor. C'est fou ça. C'est arrivé à un client, me dit Elliot, 20K. Bim. Une preuve supplémentaire que chacun peut être concerné par ces tentatives de manipulation qui peuvent avoir un impact très lourd pour les entreprises comme pour les particuliers. Méfiance, les gars. Alors, je sais, c'est stressant. Je sais, c'est un petit peu anxiogène. Mais voilà, soyez prudents. Les coups de fil bizarres de la banque ou d'une relation commerciale ou les mails, voilà, qui vous demandent de faire des trucs dans l'urgence. Voilà, tout de suite, c'est quoi? L'urgence, quoi? L'urgence, quelle urgence? C'est là où vous devez rappeler. Vous devez rappeler. Vous rappelez au téléphone, vous. Voilà. Comme le dit Hugo, Eden, ne soyez pas parano avec ça, juste restez sur vos gardes. Voilà exactement. Mais comme dit Hasta la Vista et Aaron Deal, en fait, c'est comme en matière d'information. C'est comme en matière d'information, il ne faut pas se presser. Hein, la rapidité, la course au temps est un ennemi de la qualité d'information. Plus vous cherchez à vous informer, à informer vite, moins vous vérifiez. Ouais, bah là, c'est pareil. Il faut aller doucement sur tout. L'info, on va doucement. Tout ce qui est tunas et tout, on va doucement. Sur quoi il faut aller doucement encore? Le footing, doucement. Allez pas vous claquer un truc, pareil. Voilà. Le cardio, pas forcément la vitesse. Voilà, pareil. En amour, allez, j'ai pas de règles. Là, j'ai pas de conseils à donner dans la matière. Ça y est, j'en étais sûr, vous ne pensez qu'à ça. Les préliminaires, au lit, le sexe, vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes, tout autant que vous êtes, une belle bande d'obsédés. Voilà. Et on va se terminer là-dessus. Merci pour ce matin, c'était un plaisir. Fin de cette revue de presse de ce mardi. On se retrouve demain matin pour MVP, mesdames et messieurs. Regardez-moi ces beaux invités. Hein. C'est Charlotte Vautier, c'est Ludovic B, c'est Jean Massier, c'est plus que des invités, c'est des chroniqueurs de l'émission de demain. On parlera d'emploi, d'insertion, de formation, des nouvelles tendances en la matière, de pourquoi on est moins investi au travail, pourquoi il y a plus en ce moment, pourquoi il y a une explosion des arrêts maladie, pourquoi il y a une perte de sens. C'est un des sujets qu'on abordera demain. Il y a plein de petites chroniques, plein de petits jeux, c'est ça du plaisir. Et puis notre invité MVP aussi, humoriste. Demain, il faut que j'écrive l'émission, là j'ai encore rien foutu comme d'habitude. pas que je me trompe de semaine. Je voulais aller tout à l'heure, mais je vérifie parce qu'on est en train de caler plusieurs invités. Il est où mon Paul du... Hop. Le retour de Jean, ouais. Ouais. Alors, il est où mon Paul? J'ai tout cassé, je crois. Salut mon Eden, bonne journée. Oh, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas vu ça. Ah, j'ai raté une facture. Ah, on me relance pour une facture que j'ai pas vue. J'espère que c'est pas ma banque. Jean prêtera serment? Non. Ah, c'est Léopold Le Marchand. Voilà, je voulais pas me gourer de semaine. Léopold Le Marchand, l'humoriste, notre invité MVP demain. Donc, un bon stream demain, 8h30, la revue de presse, hein, jusqu'à 10h. Hein, et puis de 10h à 13h, un petit MVP. J'ai rendez-vous dans un quart d'heure pour ma conférence de rédaction avec Paul. On fait le point sur l'émission de demain. Est-ce qu'il y a un stream ce soir? Souvent, la veille, j'écris, je suis sur l'écriture justement de l'émission. Donc, c'est pas sûr. Ah, attends. J'avais lancé justement une invitation pour un invité MVP. Je reçois le mail à l'instant et on me dit... Pardon, hop. Ok, bon, c'était pas possible. Très bien, ça roule. Oh oh. Oh oh. Je vois un mail. Un mail à l'instant. Je vois un mail à l'instant qui parle de télévision. Qui vient de tomber dans ma boîte mail. Qui parle de télévision. Il se pourrait que je fasse un petit truc en télé bientôt. Stop. Chut. Pas sûr encore. Les amis, merci. Un petit clapping. Je vous retrouve peut-être ce soir si j'arrive à bosser sur MVP, mais c'est pas sûr. Et on se retrouve également demain matin pour la revue de presse et MVP. La semaine prochaine, c'est des vacances, mais ça ne changera rien pour vous. J'emmènerai mon petit setup portable en vacances. Je vais voir la famille au Maroc. Souvent à Pâques, je passe une semaine au Maroc. On emmène le setup. Donc, la revue de presse ne s'arrêtera pas. Hop, on va faire un raid. On va faire un raid. Qui est drôle. Qui est en live. Mais pourquoi pas. Je regarde qui est en live. Oh non. C'est son anniversaire, Citron Violet. Ah mais on la raid. On l'arrête il y a quelques jours. Allez, c'est son birthday, ok. Ok, on va au Japon. Allez, ok. Mais c'est bien parce que c'est son birthday, parce qu'on l'arrête littéralement il y a un jour ou deux. Hein. Allez, on continue. Décidément. Happy Birthday, Citron Violet, c'est un super créateur de contenu français qui vit au Japon, qui nous fait découvrir le Japon dans des raids IRL. Ils ont dans un Tokyo-Osaka en vélo, jour 9. Voilà. Donc on l'a déjà arrêté dans ce périple incroyable. Là, il est en train de rouler à vélo la nuit, quasiment au milieu des bagnoles. Le mec est fou, j'adore. C'est parti. J'éteins la caméra au cas où. Je mets la scène de fin. Je vous fais des bisous. À ce soir ou à demain. Et merci pour ce matin. C'était la régalade. Ciao, ciao. Enfin, ciao, ciao. Ça part dans 5. 4. 3. 2. 1. Et bon anniversaire à notre ami Citron Violet.